Allô?
Allô?
Oui, je vous entends, monsieur. Ça va, mon Marcou?
Ben écoute, ouais, ça va. T'as vu, regarde, j'ai un petit feu dans mon dos.
Oui, j'avoue.
Mais il est violet.
C'est étrange, d'ailleurs.
C'est étrange, hein. Je sais pas pourquoi ma cam le rend violet. Alors pourtant, quand je le regarde, il est orange, hein, tu vois. Mais là, il est
Genre,
violet sur
t'as
ma
mis
cam.
quoi? Ah, d'accord, c'est un vrai feu.
C'est un vrai feu. Ah oui, c'est mon poêle.
Ton poêle à
Ouais.
mazout, le
Mon
fameux.
poêle à bouée. À
Le poêle à
bois, bois,
bouillie.
bois, bois. Bah, toi, on voit bien ton visage. Moi, mon visage, je trouve qu'on
Oui,
le
c'est
voit
parce
pas.
que c'est le PC en fait, comme j'ai un énorme écran sa
Ah
mère, du
oui,
coup ça
putain,
aide.
c'est le PC qui t'éclaire le
Et
visage.
oui, et c'est grâce à
Eh
ça
oui.
que lors de mes streams, je suis pas trop mal éclairé au niveau du visage, parce que bah genre comme je
Eh
suis
oui.
blanc et que mon écran est juste devant moi, ça m'en fout plein la tronche. D'ailleurs, à quand des vidéos sur la chaîne?
Bah du coup, il va y avoir. Alors, je peux te montrer si tu veux. C'est pas vraiment une vidéo, c'est j'ai essayé de faire de l'animation.
Oh!
Ouais.
Alors c'est pour l'avoir fait pour mon stream, genre c'est vraiment des 3 frames et c'est chiant comme la pluie.
Ah, c'est vraiment, quand j'ai de l'animation, c'est juste, je fais bouger des images. Je te montre ça parce que j'en suis très fier parce que je suis parti de rien. Et honnêtement, c'est pas ouf, mais pour un qui ne connaît rien du tout, je suis quand même pas peu
Et
fier.
mec, tu vois sur mon stream les écrans d'accueil, de pause,
Ouais.
etc. Bah,
C'est
c'est
toi qui les
animé à la
animes.
main avec mes petites mimines. J'ai
Oh, trop
passé
bien.
toute une après-midi, donc je comprends tout
Abonnez-vous
à fait
d'ailleurs à
ton
la chaîne de.
struggle. Et moi j'en suis très fier, même si c'est immonde, mais c'est fait à la main.
Alors,
Pas payer
c'était.
quelqu'un pour le faire, moi.
Je vais te streamer tout ça.
Vas-y, stream-moi des trucs. Vas-y, stream-moi
Oh.
le cul. Ah, regardez le stream.
Voilà, donc comme ça je vois ton interaction.
Alors, bonjour à tous. Je suis ravi donc de vous
Alors
avoir
ça
pour
c'est que
cette
le début,
partie
c'est
de
que des trucs, je vais te
Don't Walk
passer
in the
directement à
Woods,
l'animation
un jeu
qui
donc
doit traîner quelque part par ici.
Bon,
On dirait un
une
spectacle
bonne
de
demi-heure,
marionnettes,
une
tu
bonne
vois.
heure.
J'ai passé des plombs et puis des fois
Heure de
il y a des
sûreté.
scènes de.
Très bien, donc,
Bon,
pour pouvoir
sans parler
utiliser
du
le.
détourage, hein, évidemment,
Ah
il y a
bien
un petit.
évidemment.
Faut
Défaut,
faire
bien
attention, il y a
évidemment,
le petit lui passer
après.
Instagram à un moment.
Bah putain, ça
Putain,
fait 2 mois que je
si
suis
tu.
ici, de continuer au
Ça,
sud, comme
comme,
tu peux le voir,
ça
ça
retombera
dure,
sur
plus
le
d'une
clavier.
rivière, et derrière il y
Mais
aura
c'est
une
quoi du
rivière.
coup?
Et
C'est un
c'est
ancien
un
pont qui est
JDR du
présent,
coup
mais
que genre, on
pas
a enregistré
forcément dans un
il y a
très bon
bientôt
état.
8 mois
Et à
et
travers
qui
ce
se passe
pont, on
dans une
rejoint
forêt
les.
et
Bah
tu traverses
parfait,
vraiment le
tu fais
sud.
l'animation, même
Bah
si
ouais,
par
j'ai
là-bas il y a
pété
des
un
espèces
câble
de
il y a
pierres
2 mois,
qu'on
j'ai
peut
fait
mettre au
en fait
bout.
j'ai commencé, je me suis dit je voulais
Bah
mettre
certains,
des
ça va
images
être le
par
goût
là.
d'aller
Et en
voir.
fait
C'est
quand je me suis
vraiment,
rendu
on
compte
est à
qu'avec
recherche
Charger le montage, je
de
pouvais faire bouger les
loup.
personnages. Là mon
Donc là,
cerveau
j'ai
a
envie de
vrillé
dire.
et du coup,
Ouais,
sachez,
enfin,
j'ai stimulé à les
tu
faire
oublies qu'il y a
bouger
des
un peu
abris
plus
un peu
loin
plus
là.
loin, Marc.
Bah du
Que
coup
la
là
mort
oui,
peut
parce
se
que
cacher. Et tu fais
bouger
ça
en
avec,
plus,
j'aurais
je fais ça en
toute la
plus.
forêt.
Ah
Parce
ouais,
que moi, c'est
j'y ai
ça qui est bien, et c'est
passé.
d'ailleurs pour ça que le stream est aussi
Vous savez quoi?
sur Twitch est
Je
aussi
sais même plus
apprécié
combien de temps j'ai
des
passé dans cette
youtubeurs,
forêt.
hein, qui
Ouais.
viennent
Je suis même pas certain
gratter
d'en
nos
être
viewers à
vraiment
nous, ces
revenu.
enculés. C'est
C'est un
que
peu comme si je l'avais jamais
tu
quitté
poses
chez
ton
mes parents.
cul, tu appuies sur un bouton,
C'est un
et
peu
pouf, c'est lancé, et t'as
comme
pas
si
à t'en
j'étais enfin chez
occuper.
moi.
C'est vrai que c'est
C'est
quand même
horrible.
pratique. Mais après, ça
Oui, ça
n'empêche
fait un
que
beau
vous faites de
cul, mais voilà,
l'entertainment
c'est pas très grand, mais bon. Et ça
pendant
peut poser
Non, je dis
problème
pas
aux
que
abris
c'est
de
pas du
vous-même qui
travail,
vont
mais il
loin.
dit juste que par rapport à un gars qui se casse le
Ouais, donc
cul à
écoutez,
écrire
voilà,
un
comme je dis
texte,
au
faire un
nord, sur la
montage,
colline, vous avez
choisir
des
des plans
abris.
de caméra,
En plus,
gérer un
l'avantage, bon
éclairage,
après,
gérer du son,
moi je vous dis ça, je dis rien, mais
faire
l'avantage d'une
lumière,
colline, c'est qu'au
ça.
moins on y verra peut-être plus clair
Si
sur
tu veux
l'ensemble de
faire
la
les choses
forêt.
bien, excuse-moi,
Monsieur
mais
Murray, je
ce
vous
sera
arrête.
pas le même
Oui.
taf.
Vous chassez
C'est
quoi ici
pas le même
exactement?
taf, ouais. C'est vrai qu'effectivement,
Voilà.
c'est un taf qui est différent. Mais là, je t'avoue que sur ça, là,
Le cerf. Faites tout ça pour
c'est
aller chasser du cerf.
des
Peu de
heures et des
chasseurs
heures. Et
avec
puis
la.
j'ai des moments, tu sais, où tu. Je coupe le stream parce que t'as peut-être ras-le-cul.
Oui, t'inquiète.
C'est des moments où, tu sais, comme t'apprends à découvrir le logiciel, il y a des moments où tu te plantes. Et là, c'est des moments de rage. J'ai passé des moments de rage des fois dans mon PC en disant, mais putain, mais pourquoi ça marche pas? Ce que je veux faire.
Oui,
Tu
je
dis de
connais.
rien, tu comprends pas pourquoi ça marche pas,
Je
tu passes
connais.
des heures à trouver la solution, et après quand tu l'as, t'es là, tu fais putain, mais c'était hyper simple en fait. Et
On
voilà.
est tous passés par là, mon petit Marc.
Bah ouais.
Tous.
Parce
Tous
que
les
du coup,
créateurs de
j'ai envie
contenu
d'aller voir
comme nous.
ton. Je vais aller voir ton stream. Alors du
Voilà.
coup, bah j'ai envie de voir tes animations parce que.
Normalement, il y en a une au début, à peu près au milieu et à la fin, quoi.
Au début du stream, c'est ça?
Avant que
Alors.
j'arrive. Non, je laisse
Avant que
toujours 5
j'arrive.
minutes à peu près.
Alors. Ah oui! Ah c'est très joli, on voit vraiment les petits nuages.
J'ai fait ça à la main, comme je t'ai dit, donc je me suis vraiment cassé le cul. Hein. J'ai mis
Bah ouais, mais ça
plusieurs
rend
heures à le
bien. Et
faire.
tu dis qu'il y en a à
Ouais,
où
j'en ai
aller?
une à peu près au milieu quand je vais pisser, quoi, puis une à la fin quand je m'en vais.
Ah oui, je la vois, attends. C'est avec un arbre, c'est ça?
C'est ça.
Alors là, on va y
Tu viens,
arriver.
Pépette?
Trop
Là, c'est pas
cool.
ouf. Et déjà,
Ouais,
ça
mais
m'a
c'était
pris un
sympa,
temps.
ça fait déjà un truc, je trouve.
Ouais.
Franchement,
Et
j'ai
ça
pas
a
le son, mais
déjà
du coup, je
pris
sais
un
pas s'il y a de
temps
la
fou.
musique ou pas. Mais
Non. Enfin, il y a la musique du jeu, hein, la
il y a
plupart
la
du
musique du
temps.
jeu qui est en fond, ouais, d'accord.
Ouais.
Et il y en a
Et
un
bon.
à la fin quand t'es parti, c'est ça?
C'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Pourquoi tu
Encore m'avoir suivi.
Comment c'est dur la vie de Chacha.
Bah, c'est toujours dur la vie de chat, ça c'est clair. Ah, ouais. Et à la fin, du coup, il y a des petites feuilles. C'est toujours ta mère, du coup, qui fait les. C'est pas ta mère qui a fait les œuvres d'art ?
Si, si, bien sûr.
Ouais. C'est ça, c'est ta mère qui a fait les œuvres
d'art. C'est pas moi, je sais pas.
C'est super joli, hein. Franchement, encore une fois, abonnez-vous à l'insta de la mère de Maxime, qui sera dans la description.
Sinon, bah, je reviens de Spider-Man.
De Spider-Man. Alors, sans spoiler ni quoi que ce soit, t'as aimé ou t'as pas aimé ?
J'ai aimé, mais je sais que c'est pour les mauvaises raisons.
Ouais, d'accord, ok. Je vois.
C'est que c'est la facilité. Il n'y a pas eu d'efforts monumentaux sur beaucoup de trucs. Ça aurait pu être bien pire que ça. C'est pas trop putassier, on va dire. Mais si j'ai aimé, c'est pour des raisons évidentes. Si j'ai aimé, c'est parce que j'ai mon âge. C'est
ok, je comprends ce que tu veux dire. Et je pense, me connaissant, que j'aurais probablement le même point de vue que toi à ce niveau-là.
Ouais. Par contre, c'est très cool d'aller voir un film, surtout un genre de film un peu événement comme ça, le premier jour, parce que la salle était en ébullition. Hein.
Ouais. Oui, ça doit être ouf.
Ça, t'es en mode genre, oh, trop bien, oh! Tu vois?
C'est assez rare des moments de cinéma comme ça où t'as vraiment un public entier qui acclame une forme de joie vis-à-vis du.
C'est pour ça qu'on aura beau cracher sur Marvel et la qualité de leurs films. En fait, le fait d'avoir autant une mythologie, ça permet d'avoir ce genre de moments de cinéma aussi.
Oui, tout à fait, ouais.
Parce que quand t'as Captain America qui prend Mjolnir, t'as eu toute la salle qui est en ébullition, c'est normal. Moi, Paul, je sais que dans la salle, c'était. Oh, t'as entendu un. Oh, dans toute la salle, tu vois. En mode genre, oh, trop bien, tu vois.
Oh, incroyable.
C'est ça qu'on. Tu vois, on
a pour Star Wars. Hein. Je me souviens à la fin du set, t'avais des gens qui étaient là en mode. Oh, quand il y avait Luke Skywalker qui apparaissait. Et j'avais vécu ça aussi sur le Seigneur des Anneaux quand je l'avais vu la nuit du cinéma à Lyon pendant le Festival Lumière en je sais plus quelle année, je crois 2018. Si je ne m'abuse, pareil, à chaque fois qu'il se passait un truc, t'avais toute la salle qui se levait. C'était Legolas qui bute des gens, ils sont là à faire waouh, tapant dans leurs mains comme
ouais,
ça.
C'est des soirées un peu spéciales, c'est cool.
Gandalf, Gandalf, et c'est ouf, c'est une effervescence quoi.
Mais et sinon, justement, c'est assez marrant que j'ai vu The Eternals et Spider-Man juste après, qu'il y a vraiment une énorme différence pour moi en termes de qualité, autant scénaristique que de mise en scène quoi.
Ouais,
c'est que autant t'as plein de plans dans The Eternals dont je me souviens en me disant putain c'était classe quand même. Genre par exemple, une des premières scènes où en fait tu vois justement Icaris genre voler contre un ennemi et tu vois genre lui planter les yeux, tu vois genre c'est bien filmé, tu vois t'as une puissance dans le mouvement.
Non, non, c'est clair.
Par contre, en fait, t'as très peu de plans iconiques dans ce dernier Spider-Man et c'est très éclairé comme tous les autres Marvel en fait, c'est un Marvel normal.
Basique. Basique, mais avec des trucs qu'on ne spoilera pas ici qui font que du coup ouais. On aime
c'est
mais pas pour
les
bonnes
raisons. C'est pour ça qu'en fait c'est plus un événement pour ce qui est en dehors du film et pour ce que du coup la thune de Marvel leur permet de faire.
D'accord, ok.
Mais en vrai, je ne vois pas non plus bouder son plaisir. J'ai quand même kiffé certains moments.
Oui, bah oui, non, forcément,
mais
ça, c'est clair.
C'était la facilité tout de même.
Je te dirai ça demain.
Bon, c'est décidé. Ce soir, je me fais un Burger King, je me fais livrer. Ça fait longtemps.
T'es en train de le commander là, en ligne, en direct ?
Non, j'attendrai que ce soit fini.
Ça marche.
Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais bon.
Ça durera le temps que ça durera, écoute. Mais bon. Moi, je ne peux malheureusement pas me commander de trucs et c'est bien malheureux. En ce moment, il n'y a rien d'ouvert.
C'est tant mieux pour ma santé, mon petit Marc.
Ouais, mais des fois, t'as quand même un peu vénérière. Je voulais me faire un resto et il n'y avait rien d'ouvert.
Bah moi, justement, j'ai fait un resto ce midi. On a été au Lello. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, c'est le resto italien, celui qui fait les pâtes dans la meule de parmesan.
Et du coup, c'est pour ça.
L'huile de truffe. Ah, c'est ouf.
Et bah, du coup, on a été dans ce resto-là. Et du coup, je me disais, putain, cool. Franchement, des pâtes au parmesan ou de la truffe, c'est trop bon et tout machin. Et il n'y en avait pas dans le menu.
Il n'y a plus ça dans le menu. Oh, quel
plaisir. C'est dans celui dont il y a été. Du coup, bah, j'ai pris genre des spaghettis sauce tomate, quoi. Donc on s'emmerde un peu et j'ai très faim parce que même leur dessert m'intéressait pas, donc en fait j'ai mangé des pâtes et je suis rentré chez moi. Enfin, j'ai été au ciné, mais voilà.
Et
après, j'ai un peu ce besoin de gras et un peu de sentir à l'intérieur de moi des mauvaises choses.
Sentir des mauvaises choses. Et on accueille Jules parmi nous. Jules, ça va ?
Bonjour Jules.
Ouais, mais Jules, en plus, il a un Blue Yeti, hein, on se refuse rien. C'est du matos de professionnel.
De qualité.
Mais...
Tu nous entends ou pas, toi ? Toi, tu nous entends parce que tu souris, mais nous, on t'entend pas.
Non.
Ah oui.
Là, ah yes. Ouais. Il fallait appuyer sur
yes.
Le bouton, c'est ça.
Bon bah recoucou du coup.
Recoucou.
Bah en fait on n'a pas entendu. Mais
voilà, du coup pour moi recoucou, coucou pour vous. Et oui, non, vraiment, je pensais avoir dit 19h.
J'avais pas non, mais le... c'est peut-être moi qui me suis bourré.
Entre 18h30 et 19h, donc...
Ah oui.
Ouais, donc, j'ai re-regardé, ouais, donc...
Okay, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à foutre, là, donc...
Pareil, moi, j'ai fini l'enregistrement avec Tiff et Elia, il y a genre 15 minutes, donc...
Et il enchaîne, lui, il passe ses jours à parler à des gens sur Internet, Marc. Achète-toi une vie.
Mais c'est vous ma vie, putain. J'ai pas de vie en dehors.
C'est triste de dire ça. C'est triste, monsieur.
Dehors, putain.
Non, ce qui est fort avec Marc, c'est qu'il arrive, à acheter nos vies, tu vois. C'est justement ça qui est fort, tu vois. C'est nous qui lui donnons du temps, tu vois. Il a pas besoin d'en chercher.
Et Dieu sait que t'en as donné pas mal du temps, Jules. C'est dans les temps justement avec les différents JDR. Et je t'en remercie encore une fois de plus, d'ailleurs.
Non, c'est toujours un plaisir de faire du JDR. On n'en fait jamais assez.
On n'en fait jamais assez, c'est vrai.
En ce moment, j'ai zéro temps. Voilà.
Et du coup, Maxime aussi, tu me donnes quand même une partie de ton temps qui était très précieux, notamment pour les streams et tout ça. Et pareil, je te remercie.
Ça, c'est pas comme si je travaillais dimanche.
Vous êtes remercié aussi de nous écouter sur votre temps libre ou pas libre, ça fait toujours plaisir.
Quand vous bossez, on le sait, il y en a beaucoup qui nous écoutent.
Voilà, c'est toujours un plaisir. Donc bienvenue dans ce petit enregistrement sympathique, ce petit de rien et de tout qui va servir surtout, je ne vous le cache pas, à combler le fait que je suis toujours en retard sur les enregistrements principaux. Qui aurait dû arriver déjà depuis un mois, mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, déjà, est-ce que vous allez bien pour commencer?
Bah moi, ça
oui,
va.
Bah voilà, je commence. Ah bah du coup, on a répondu en même temps.
Voilà, parce que du coup, on a deux attendu. On commence, on
savait pas. Oui, vous avez commencé en même temps, c'est très drôle.
Non, vas-y, Jules, vas-y.
Non, bah juste, ouais, bah, ça va bien, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter, t'inquiète pas, ouais, nickel. Du coup, en ce moment, c'est le dernier rush avant Noël, donc, avant la fermeture, du coup... d'hivernal du labo, donc du coup bah, ça court partout, mais voilà, sinon ça va.
Et toi, Max?
Bah moi ça va, je reviens d'un ciné, c'est mon jour de congé. Travaillant dans un magasin, c'est une période fortement dynamique pour et parler comme un patron, mais comme je suis pas un patron et que je suis de gauche, bah du coup je dirais non, c'est la merde un peu fatigué. Sinon ça va, on fait aller
quand même. Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup instinctivement je vous demande comment vous allez et il se trouve que bon bah pour les auditeurs ils ont qu'une semaine de décalage, mais en vrai on a pas mal parlé du rapport à Noël avec Tiff et Elia tout à l'heure et instinctivement vous avez commencé à en parler du rapport aux fêtes, du rapport à Noël, du fait que effectivement très rapidement il y a une forme de rush qui se crée autour de cette période-là,
la
que ce soit
atroce pour
cas des ouais ça une forme de speed, que ce soit pour les gens qui vont fermer et qui du coup doivent bosser très rapidement, ou alors pour les gens qui comme toi et moi Max qui restent ouverts et qui du coup vont devoir bosser pendant les périodes de fête et c'est assez intéressant de je serais curieux d'avoir votre point de vue sur ça sur ce
avant
que vous
ça Marc oui comment toi tu vas?
Ah c'est vrai que vous m'avez pas posé la question.
Bah non.
Et merci de l'avoir posé. C'est compliqué, mais ça va. Je suis content d'être là avec vous ce soir, comme vous pouvez voir, mon air réjoui. C'était cool. Voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être là. C'est un métier passion finalement, ça, de faire des podcasts. Voilà.
Des passions. Voilà. T'as pas besoin d'être payé au final. T'es payé en passion, en visibilité.
Hein, voilà. Et c'est bon. Donc je suis content de vous recevoir. D'une part parce que Jules, ça fait plaisir de voir ton visage, étant donné que pour des soucis de connexion, à chaque fois qu'on se voit, je ne te vois pas réellement en vrai. Et Maxime, ça fait toujours plaisir de te voir parce que je te vois pas si souvent que ça, mine de rien. Donc c'est chouette.
On aimerait, c'est sûr.
Et c'est toujours sympa d'avoir une, même si vous n'êtes pas réellement là et que c'est virtuel, d'avoir une vision des personnes avec qui on est finalement.
Donc, regarder dans le blanc des yeux, quoi.
Oui. Vous voir ce qui se passe sur le fond, voir le chat, voir voilà, c'est ça fait plaisir, quoi.
Oui, le chat.
Enfin, les expressions du visage. Parce que moi aussi, du coup, je vois pas en JDR parce que je suis obligé de couper vos caméras, sinon.
Tu coupes aussi nos caméras, je savais pas.
Et oui, donc du coup, il y a plein de choses qui se passent quand vous coupez vos micros, qu'on passe à une scène qui vous concerne pas. Il y a plein de réactions que vous avez que j'étais très frustré de pas avoir, quoi. Non, j'avais pas vos réactions visuelles, je savais pas comment vous réagissiez du JDR là qu'on a terminé, je savais pas ce qui se passait à part du coup avec Manon là où on était en train de faire avec elle. Je savais pas comment vous réagissiez à la scène et même elle, je savais pas comment facilement elle réagissait. Et c'est vrai que ça manque pas mal de pas voir les expressions des gens et tu le ressens dans les blancs que t'entends. Tu dis OK, là il y a un truc facial qui se passe, mais tu l'as pas.
Moi honnêtement, la scène où bon c'est du spoil mais c'est pas grave, on s'en fout. La scène où je me fais choper par l'alien, vraiment où je fais que des échecs critiques sur l'observation et en tant que joueur, tu sais que l'alien il est là, c'est obligé, mais tu dois quand même continuer à agir normalement, je me chiais dessus parce que je savais pas à quel moment j'allais me faire choper. Et vraiment dans ma voix, on sentait que j'étais en PLS total.
Petit trémolo.
Voilà, petit trémolo dans la voix et tout. Et bon, évidemment, je me suis fait choper. Hein, voilà, mais.
Et rip.
Mais bon, et rip ou pas d'ailleurs, peut-être, on ne sait pas. Pas trop de
spoiler. Ça sentait dans ta volonté de. Parce que du coup, pour te poser le cadre, Maxime, il était dans un couloir en fait, et il savait très bien que ça allait se passer dans ce couloir-là, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, lui, ce qu'il voulait absolument, c'était couper ce couloir et rejoindre la porte qui était en face. Et il m'a forcé la main presque en me coupant en me disant J'ouvre la porte. En espérant échapper à ce qui pouvait se passer. Ce qui bien évidemment n'est pas arrivé. Je me suis pas laissé avoir comme ça quand même. C'était pas.
Et non. Et d'ailleurs, mes compagnons m'ont totalement abandonné parce que comme j'ai ouvert la porte, ils m'ont vu me faire choper et ils ne sont jamais allés me chercher du tout.
Alors, faut savoir que ça, c'est quand même très alien. Hein, comme,
ah bah oui, non mais tout à fait.
Le gars qui court pour aller à quelque part, puis les autres sont désolé.
Désolé, tu fermes la porte. Non, j'ai rien à redire, c'est moi qui jouais l'enculé de service dans ce JDR de toute façon. Donc,
en tous les cas, quelle que soit la teneur de votre jeu de rôle, ce sera toujours mieux que Prometheus ou Alien Covenant.
Ah, ça c'est bien dit ça.
Oui.
Ça
a toujours coûté beaucoup moins cher. Donc, pour moi, c'est toujours une réussite. Un JDR Alien, c'est toujours une réussite.
C'est vrai. ça c'est bien. Vous en pensez quoi d'ailleurs, puisqu'on en parle de ça, bon, ça on fera peut-être un hors-série sur Alien probablement, mais ça vous inquiète ou pas une série Alien faite par Disney? Puisque c'est ce qui est dans les cartons. Alors je vais vérifier, hein, mais.
Ouais, il y a bien une série Alien qui est dans les cartons, qui devrait se passer sur Terre. En tout cas, ils en parlaient à un moment donné de la faire se passer sur Terre.
Avec des androïdes, je crois, non?
Bah écoute, je sais pas. Moi, je sais pas. J'espère. C'est à chaque fois que t'as une série qui sort sur un univers que t'adores, forcément t'as un mouvement de recul, mais en même temps ce serait con de pas laisser sa chance aux gens, tu vois, donc why not. Après, tu vois, j'ai un peu peur des séries qui veulent tellement du coup se détacher du truc de base parce qu'ils ont peur d'être dans son ombre, que du coup ils partent dans totalement autre chose alors même qu'ils ont le matériel de base pour en faire, enfin pour coller vraiment, enfin ils voient ce que c'est, quoi. C'est pas une adaptation d'un roman à un film, une adaptation d'un film à une série. En fait, t'as déjà les images, t'as déjà l'ambiance, t'as déjà les sons, t'as déjà pas mal de trucs comme ça, ce qui je trouve ressortait pas dans la série The Witcher, où ils avaient un matériel qui avait déjà été très très bien adapté en jeu vidéo, mais presque cinématiquement en fait, et qu'ils ont, je trouve, très pauvrement ressorti et maladroit. Enfin, c'est pas du tout en fait l'ambiance que tu ressens en regardant la série, je trouve, et pas du tout l'univers du film. Et dans les adaptations, je trouve, de Alien, la plupart du temps en fait on s'est focalisé sur les combats, du coup sur le deuxième film, parce que c'était plus facilement adaptable, surtout dans des jeux vidéo. Bon voilà, du coup t'as un gun, t'arrives, tu tires, quoi. Et je trouve qu'en fait, ouais, il y a assez peu de fois où on avait réussi, enfin où les gens qui le faisaient avaient compris ce que c'était que le matériel de base, qui était un truc d'horreur en fait.
Alien Isolation qui a bien compris le truc, je crois, c'est ça.
Alien Isolation, mais pour moi, c'est un travail mais incroyable de fan absolu, quoi, et qui retranscrit vraiment le truc. T'as aucune, c'est là pour le coup, il y a pas vraiment de gun. Enfin, le gun, ça va juste aider à gagner du temps. Et t'as un alien qui est imbutable en fait, et t'en as qu'un, et il est imbutable. Toi, t'as pas les moyens en fait de buter. Il va falloir te cacher, il va falloir faire d'autres choses, il va falloir peut-être le faire fuir, mais t'as vraiment du coup ce côté peur qui ressort. Et les gars ont été tellement motivés, tu le sens, par le matériau de base, c'est-à-dire le premier film, qu'ils ont quand même refait des DLC où tu peux jouer des scènes du premier film en tant qu'acteur. Ouais, ils ont refait l'équipage et tout, tu peux choisir qui tu seras, tu peux jouer la scène des conduits du 1, qui est une sacrée scène, donc tu peux rejouer tout ça. Et quand tu te balades dans le Nostromo, dans le vaisseau, ils ont refait des détails, comme par exemple le trou d'acide dans l'infirmerie, juste à côté du lit, quand ils essayent de découper le facehugger la tête de Kane, et que ça fait un trou au sol, quoi. Et t'as tout en fait qui est, enfin tu vois, c'est par ce détail, par ce genre de détail là, je trouve que tu vois que c'est des gens qui sont investis dans le matériel de base, des trucs à la con, du genre des petits icônes que tu vas retrouver dans les plans du jeu. C'est des icônes qu'en fait qui avaient déjà été faites pour le premier film et que tu retrouves en fait dans l'image quand tu cherches, enfin. Et vraiment, ils avaient compris, je trouve, l'ambiance. Mais au final, par rapport à la totalité des adaptations du coup des films, c'est peanuts, c'est rien. Donc j'ai, voilà, je veux pas présager du mauvais pour cette série. Mais voilà, j'attends de voir, sachant que ils ont le choix entre deux trucs, soit ils partent, enfin entre trois trucs, soit ils partent sur une adaptation un peu bourrine,
Ouais.
Soit ils partent sur une adaptation un peu du coup premier film ou troisième, un peu voilà bah du coup horreur quoi. Soit ils partent sur un espèce de truc avec l'espèce de prélogie Ridley Scott. Mais
ouais.
J'espère que les faibles audiences de Covenant qui ont du coup coupé l'herbe sous le pied de Ridley Scott leur feront un peu peur. Mais ça serait bien.
Et toi Max, t'en penses quoi tout ça? Alors si je ne m'abuse, t'as streamé Alien Isolation,
non? Non, j'ai tenté de streamer Alien Isolation. Et ouais. Au bout de 2 heures, je me suis beaucoup trop chié dessus, donc j'ai arrêté. je déteste l'impuissance dans les jeux vidéo, et le fait de n'avoir absolument aucune arme à part se cacher, c'est des choses que je peux pas, moi, personnellement. C'est très cool, hein, je veux dire, quand tu aimes ressentir cette peur qui te transcende, mais moi, c'est pas mon délire.
Ouais.
Alors, concernant la série Alien, moi, j'ai abandonné Alien à partir de Covenant. Hein. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la licence, maintenant, je m'en bats les
couilles.
Ouais,
t'as perdu
les Aliens, c'est les 4 Aliens. Et c'est marre. Donc moi, à ce niveau-là, j'attends rien. J'ai pas spécialement peur, si tu veux, parce que j'ai plus peur de rien là-dessus. Ils ont tout chié dessus. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Pour moi, elle est morte. Tout ce qu'il y aura dans le futur, ce sera de la merde. Et si c'est bien, bah, c'est tant mieux. Mais ça m'étonnerait. Par contre, j'aimerais rebondir justement ce que ouais. disait Jules. Et je pense que c'est un autre type de piège dans lequel on peut tomber à vouloir être trop, justement, dans le détail, trop dans le respect. Et du coup, tu peux pas faire ton propre délire. Et pour moi, une bonne adaptation, c'est pas une adaptation qui respecte à 100% le matériel de base. Pour moi, une bonne adaptation, c'est ce qui comprend, ce qui fait que le matériel de base marche et raconte quelque chose qui nous parle et qui essaye d'en faire autre chose pour raconter ouais. autre chose.
Je suis assez d'accord. Je trouve que si on va rester sur la saga Alien, je pense que c'est en ça que moi j'aime beaucoup le film de Fincher. Même si bon, il a ses défauts parce que voilà, la prod, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais je trouve que justement, il reprend le principe du premier. C'est des humains qui sont coincés avec une bestiole invincible. Mais le fait d'avoir délocalisé ça, non pas sur un vaisseau, mais dans une prison avec des fanatiques un peu chelous, ça permet de changer l'ambiance et de faire en sorte où, au final, tu te rends compte que t'as peut-être plus à avoir peur des humains qu'à avoir peur de la bête, d'une certaine manière.
Surtout en tant que femme. Alors déjà, la thématique du viol était déjà très utilisée dans le premier, mais effectivement, dans le troisième, elle est plus viscérale parce qu'elle est plus palpable. C'est pas juste un alien qui fait ça de manière bestiale. C'est plus,
c'est des humains,
plus insidieux, plus putassier, on va dire.
Ouais, je suis d'accord avec vous sur le fait que justement faut pas rester focalisé. C'est pas ce que je voulais dire avec Alien Isolation.
Non, toi, tu voulais dire justement que c'était des vrais fans et que ça se voyait. Mais c'est un danger aussi d'être un vrai fan parce qu'un vrai fan,
je
va pas forcément oser aller à contre-courant parce qu'il va dire bah non, ça c'est trop bien, je peux pas y toucher, tu vois.
Oui, c'est sûr, mais là du coup, ça leur permettait de faire une adaptation en vidéoludique du premier film, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais après, par rapport aux films en eux-mêmes, je trouve que justement, c'est ça qui est trop bien dans la saga Alien, c'est que c'est quand même des films qui ont été faits à chaque fois par des réalisateurs différents, qui ont à chaque fois eu totalement un cadre différent, une ambiance différente, mais qui restent en fait cohérents les uns dans les autres, à la fois du coup, bah, déjà dans l'histoire, dans le gestes et tout, mais également en fait dans le côté flippant. C'est-à-dire que même le film de James Cameron, c'est pas juste un film bourrin, c'est un super bon film d'action où en fait t'as des vrais moments de tension. Même si tout le monde a des guns, même si là t'as des milliers d'aliens, t'en as pas qu'un, t'en as machin, t'as des vrais vrais moments de tension et chaque alien fait peur en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que le quatrième s'éloigne légèrement de ce côté-là, parce qu'il rejoint plus un côté action, selon moi. Hein. Il rejoint plus un côté action, et il délaisse un peu ce côté flippant. C'est-à-dire que dans le quatrième, quand on voit un alien, il n'y a pas en fait cet impact. Ou très peu. Il y a des scènes cool, il y a des moments de tension action cool, mais pas de tension qui te prend au trip en mode merde putain là c'est flippant, enfin là je suis dedans. Ou... Moi en tout cas j'ai pas trop retrouvé.
C'est
mais
parce que
ça reste un bon film.
Quand on le voit l'alien, il peut plus être flippant, on le connaît trop.
Ça je suis pas d'accord.
À moi vraiment de trouver the manière de le filmer nouvellement, mais je veux dire, dans un truc comme ça, après tous ces films et dans la direction dans laquelle ça partait, maintenant on sait qu'il y en a plus d'un. Donc si tu veux, c'est la menace, il faudrait vraiment qu'ils réinventent le truc et qu'ils en fassent qu'il n'y en ait plus qu'un. C'est pas, pour moi, c'est pas si facile que ça. Après tous les films qu'on a vus, toutes les méthodes qui ont été utilisées pour les buter, on les connaît, on sait leurs limites, on sait leur mode de fonctionnement. Justement, ce qui nous faisait peur, c'était qu'on ne savait pas ce que c'était, surtout dans le premier.
Oui, mais tu peux avoir... Effectivement, tu n'auras plus la peur de l'inconnu face à l'alien. Quoique, parce que... Enfin, ouais, j'ai très envie de dégager tout ce qui est de la prélogie, et donc je trouve que du coup, si on dégage ça, il y a encore une bonne zone d'ombre qui est bien exploitable.
Il y avait toute une atmosphère lovecraftienne à prendre
déjà en
compte avec les inventeurs, justement, enfin les ingénieurs.
Mais le pire étant...
Et donc effectivement, il n'y aura pas de peur de la découverte, de l'inconnu. Encore une fois, quoique... Mais... aujourd'hui, on arrive toujours à faire des films de vampires, alors que tout le monde sait très bien de A à Z comment ça fonctionne.
C'est oui, mais ils font pas peur.
Ah ben, si, on arrive à faire des films flippants.
Genre.
Mais non, mais enfin, je veux dire, toute la mythologie folklorique, etc., que ce soit des loups-garous, enfin, n'importe quoi, en fait, les zombies ou machin, on sait très bien comment ça marche. C'est pas une question de savoir comment ça marche, au final, qui va annihiler ta peur ou pas. C'est les moments, c'est les situations, et c'est comment est-ce que tu vas découvrir les trucs.
C'est refuser le fait qu'Hollywood, c'est toujours plus.
Ah oui, enfin, non, mais ça, c'est autre chose.
D'un point de vue créatif, je parlais plutôt.
Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est au niveau de l'industrie. Oui, d'accord, mais parce que je trouve que voilà, justement, Alien Isolation, il te montre bien que non, un alien, ça peut faire flipper, quand bien même on sait ce que c'est. Il y a beaucoup de supports de BD.
En live.
En direct devant les...
Il y a des BD aussi, des BD qui ont été faits, des comics de Alien que j'ai découvert en début d'année dernière. Et putain, il y a des scènes en BD, ça m'était pas arrivé, mais où tu fais waouh, ok, ouais, c'est tu passes la bulle d'après, tu fais ah oui putain, yes, cette ouverture de porte, cette entrée comme ça, putain, trop bien quoi. Et je pense qu'il y a totalement des moyens encore de filmer l'alien. Par contre, je pense que ouais, il y a cette espèce d'industrie hollywoodienne effectivement qu'on veut toujours plus. Et puis là par exemple, c'est Ridley Scott le dernier qui disait oui non mais l'alien de toute façon on en a plus rien à foutre, c'est juste une bestiole que les différents auteurs après moi ont juste fait baver comme un tuyau d'arrosage, ce qui fait rigoler quand on voit ce qu'il en fait dans Alien Covenant, parce qu'on n'a jamais vu un alien qui bavait autant. Mais en fait, c'est juste que c'est un auteur qui ne s'intéresse pas à les créatures. Enfin, c'est pas ça en fait sa question.
Il est jamais intéressé en fait.
Mais oui, et tu vois ça dans les deux films qu'il a fait dans la préquelle, c'est pas ça qui l'intéresse. D'ailleurs, là, il déporte totalement l'enjeu sur David, parce que ça l'emmerde.
Et c'est l'enjeu du divin qui l'intéresse lui dans.
Et oui. Et ça, c'est un autre souci, c'est que en fait, il n'est pas intéressé par la saga Alien. Voilà, c'est-à-dire que Prometheus Covenant, on n'a rien à foutre qu'il soit dans la mythologie, enfin qu'il soit dans l'univers Alien. Tu peux les mettre dans autre chose. Ce sera des films de merde et ils n'auront pas eu à salir tout ça, quoi. Mais je pense que c'est le regard de Ridley Scott sur cet univers-là qui en fait est absolument très pauvre, mais qui.
Je pense que le plus triste dans cette histoire, c'est que finalement, à part la saga Alien et du coup avec tous les grands noms que ça implique, entre Ridley Scott qui a fait du coup ces deux bouses infâmes que sont Prometheus et Alien Covenant, il y en a d'autres qui ont fait des films dans cet univers et dont les films, moi, je les trouve pas si terribles que ça. Paul W.S. Anderson, hein, monsieur, je fais des films Resident Evil, voilà, qui a fait Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, qui sont pour moi des films qui sont très très moyens, mais qui ne chient pas sur justement
le premier notamment, ouais.
L'alien, alors il utilise n'importe comment, évidemment, hein, c'est des gros actionneurs dégueulasses et débiles, mais il chie pas dessus, il l'attaque pas, ils vont pas se dire, ah mais non, mais finalement c'est un alien, c'est des aliens qui nous ont ingénierisé mes coups sur ton front avec de la matière noire qui font des trucs n'importe quoi. Non, juste il dit, bah les aliens c'est ça, puis nous on fait ça.
Bah c'est ce qu'il a fait en fait, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de changer la localisation, lui il voulait faire un actionneur un peu débile, donc il a foutu des aliens dans une pyramide en Antarctique avec des prédateurs dedans. Soit dit en passant, d'ailleurs je sais plus qui avait montré ça, je crois que c'est Durandal sur internet qu'on avait parlé, mais le scénario de Prometheus c'est exactement le même que le scénario de Alien vs Predator.
C'est excellent ça.
Ils n'utilisent pas le vrai acteur qu'ils ont utilisé dans Alien vs Predator.
Et il y a plus de cohérence dans AVP que dans Prometheus.
Ouais voilà, Prometheus est totalement illogique en plus de ça en fait, donc... Oui, c'était excellent comme comparaison, là, comme il le fait, Durandal, effectivement. J'étais mort de...
Le pire étant, c'est qu'on oublie justement que pour avoir peur dans un film de ce genre-là, c'est qu'il faut qu'on se mette à la place des personnages, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les apprécie. Pour avoir peur, il faut que justement la situation nous semble logique, il faut que les personnages nous semblent logiques, il faut que leurs enjeux émotionnels y soient du coup traités. Sinon, on peut pas s'intéresser à ce qui leur arrive, ils auront beau crever, être tout seul dans un truc, on dit « ouais, mais je m'en bats les couilles, je l'aime pas, lui ». Donc,
ouais.
Je pense que c'est surtout ça le gros ratage de Prometheus, c'est que « puis tu t'en branles, en fait, les personnages sont insignifiants possible, ils n'ont rien ».
Il y a trop de membres d'équipage qui sont pas traités, on sait même pas qui sont qui, on sait même pas combien ils sont. Les gars qui ont des fonctions définies, au final en fait savent pas les gérer.
Non.
Typiquement voilà, le cartographe.
Surtout du second année qui va me dire ah non j'ai trop peur, puis ensuite ah bah tiens on va toucher l'espèce de monstre chelou bizarre visqueux.
Et là s'active la roue tournante de la matière noire et zombie.
Transformation en zombie, c'est génial.
Le fameux. C'est vraiment la matière noire en scénarium quoi. Elle fait faire ce que t'as envie de lui faire.
Et d'ailleurs, ça va être la même chose pour Predator, finalement, parce que Predator, le premier film, était très cool. Il y avait une ambiance très l'homme face à la nature, le maître face à ses propres contradictions. Pour une fois, du coup, l'homme est chassé, plus un chasseur, et du coup, ça permet de mettre pas mal de trucs qui sont un petit peu
poétiques. Oui, puis t'as cette double lecture à la fin qui chasse qui, finalement, dès que Schwarzy reprend sa bestialité, c'est lui, finalement, qui chasse le Predator, donc c'est lui le Predator.
C'est ça. Et du coup, t'as tout un truc pesant où tu sais pas si le Predator est là à observer ou pas. Et dans le deuxième, c'est très différent. Moi, je suis beaucoup moins fan du deuxième. Hein. Les tigres de terre, ils sont en safari, n'est-ce pas, Marc?
Moi, j'adore le deuxième, le côté jungle urbaine. Je trouve ça. Tu vois, justement, ça, c'est vraiment un principe de réadaptation. C'est-à-dire que tu prends le personnage, tu le refous pas dans une jungle, tu le fous ailleurs, et tu décides de le foutre dans le pire endroit du monde,
le
jungle urbaine.
Le deuxième,
c'était couillu, ça.
C'est très couillu, et je trouve qu'il marche. Il est un peu ridicule, mais parce que voilà, mais c'est l'époque, mais il marche. Predator, par contre, il est nul à chier.
Il marche pas. Les personnages sont traités à la Zub. On s'en fout. On s'en fout.
Et le il y en a encore le quatrième, ouais. Oui, voilà, il y a le Predator.
Moi, j'ai pas pris ça pour un Predator, j'ai pris ça pour une comédie. C'est un buddy movie avec des gars échappés d'un asile qui rigolent et puis il y a un alien au milieu, quoi. C'est
quand même à un moment donné le Predator qui utilise le bras d'un mec pour faire un signe de pouce.
Qui fait genre. C'est tout va bien, totalement ridicule. Mais en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment sur ce film à partir du moment où j'ai abandonné l'idée que c'était un film Predator. Mais
Predator, c'est intéressant comme trilogie parce que c'est vraiment comme suite de films.
J'ai tendance à avoir du mal à traiter ça comme une trilogie pour moi.
Mais oui, voilà. En fait, les films, vraiment, il y a un film qui marche super bien, qui est le premier, qui est un gros coup de. Enfin, t'arrives, tu t'en ressors, tu fais waouh, putain, ok, yes. Et puis en fait, tous les autres films, le 2 effectivement se tient, mais il est quand même déjà dans l'ombre du premier et qu'il n'arrive pas tout à fait à rattraper. Et les autres, et du coup, ils sont en mode, ok, bah, on va revenir à l'origine du truc. Et en fait, ils n'y arrivent jamais. Enfin, vraiment, ils n'y arrivent jamais, quoi. Et les films en soi, je trouve qu'ils suivent moins. Bah, d'ailleurs, ça se ressent, enfin, rien que déjà dans la connaissance du public. Personne connaît Predator. Enfin, en vrai, très peu de gens. Tout le monde connaît Alien versus Predator. Pour moi, Alien versus Predator, ça fait vraiment partie de. Enfin, pour moi, c'est Street Fighter. Hein. C'est juste, on a pris Dark Vador pour se battre contre, je sais pas, moi, Pokémon, quoi. Tu vois, vraiment, c'est un délire.
Les films, je déteste pas. Hein, mais
Non. Et moi, le premier Alien versus Predator, d'ailleurs, je trouve que c'est un film d'action correct. Que je mets pas en vis-à-vis des autres, quoi. Bon, le deuxième, il veut tellement se démarquer en étant salace que ça devient gênant, quoi. Mais pour moi,
il y avait des personnages, quoi, mais c'est tout.
Oui, voilà. Oui, aussi. Ouais, bah voilà, après, ça devient vraiment la connerie, genre la blondasse, vraiment qui crie pendant tout le monde du film. Mais c'est vraiment ça, hein. Bah ouais, de toute façon, dès qu'ils le mettent dans une petite ville américaine tranquille. Oui, d'accord, ok. Alors, on fait la liste dès le début du film. Elle en première.
J'ai pas l'argent pour avoir une belle voiture pour pouvoir pêcher ma copine. Oh zut, les aliens débarquent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vais-je trouver le courage de sauver ma copine?
Tellement beau.
Ouais. Mais Predator, ouais, c'est... J'arrive pas vraiment, du coup, à avoir d'avis sur cette série de films. Parce qu'effectivement, en fait, moi, je reste... Je regarde le premier avec plaisir, je le regarde, mais c'est vrai que les autres, même le 2, je l'ai vu une fois, je fais ouais, ok, c'est cool, j'ai pas vraiment regardé. Non, sauf pour, du coup, la scène qui a, du coup, créé Alien vs Predator à la fin.
Et oui, c'est vrai qu'il y a une scène qui crée Alien vs Predator à la fin. Mais c'est vrai que, et encore, le premier Predator, c'est presque un coup de bol si ça a marché, parce que s'ils avaient gardé le premier costume, là, celui de
Major Predator. C'est un coup de bol, en fait, c'est une série de mésaventures de la production. Qui ont fait que tout s'est mis en branle pour que ça devienne ce que c'est, à la force des bras du réal qui, du coup, a tout traîné comme ça. Mais en vrai, c'était parti pour être une daube infâme.
Mais grave. Effectivement, le premier costume, si les auditeurs n'ont pas regardé ce que c'est que le premier costume à la base de Predator, il faut absolument le regarder. Et oui, en plus, mais faut absolument que vous mettez pause, vous regardez, vous comprendrez, en fait, le. C'est exactement la même pour Alien. Oui, c'est exactement la même pour Alien. Les premiers sketchs d'Alien, c'est vraiment le truc typique d'époque, genre le truc tentaculaire, vraiment zérisette, quoi.
Souvent, dans un processus créatif, bah, c'est ça, tu passes par plein de phases où tu te dis « Ah ouais, mais non, ça, c'est pas ouf. Ah ouais, mais non, ça, c'est pas ouf. » Et en fait, c'est seulement au bout d'un certain temps que tu arrives. Et je pense que de nos jours, c'est un peu ce qui manque. C'est qu'en fait, les gars, ils prennent plus le risque de se dire « On va commencer la production d'un film avec une idée. » Et du coup, avec une suite d'essais et d'échecs, on va essayer de trouver un truc bien. Et un truc qui marchera, mais un truc qui coupera avec le reste. Maintenant, c'est juste « bah ça marche à peu près. Vas-y, zou. »
Mais t'as...
On a une possibilité d'action avec la... maintenant les images de synthèse qui est ouf. Donc en fait, t'as pas
de. Oui, alors on pourrait créer des trucs vraiment horribles en fait, hein, visuellement. Mais d'ailleurs, on attend toujours l'adaptation de... des Montagnes hallucinées de Guillermo del Toro qui arrivera peut-être un jour. Il a promis qu'il pencherait dessus cette année. Donc,
ça serait génial.
On y croit, mais. Mais pour rester dans, le, dans la thématique cinéma d'horreur dans l'espace, et c'est vrai que c'est. Il y a un film en particulier qui m'est venu en tête qui, je crois qu'on l'avait vu ensemble, Max, c'est Life.
Non, on l'avait pas vu ensemble, on l'avait vu à pas beaucoup de temps d'intervalle.
Et au final, c'est un alien-like, où c'est des mecs qui sont dans une station spatiale, il y a une créature extraterrestre. Et au final, tu te rends compte que, bon, même si ça reprend des poncifs du genre, c'est un meilleur alien que tout ce qui a pu être fait.
En fait, c'était efficace. C'était pas extraordinaire.
D'accord.
C'était efficace, d'accord. Et t'avais du coup le petit truc où tu vois, genre t'aimais bien ton équipage et du coup en se disant putain il va clamser, mais genre t'avais quand même le petit truc de dire ah ils sont un peu dans la merde quand même.
Et comme quoi c'est surprenant, je trouve, quand la tête d'affiche meurt assez brutalement d'un coup, tu fais ah ok. Ok, bah super.
On est
dedans, quoi.
Tu l'avais vu, toi, ce film, du coup ?
Ouais. Life, je l'avais trouvé pas mal, ouais, vraiment.
Ouais, j'avais trouvé vraiment intéressant. Mm. Enfin, je l'avais. T'es un peu prévisible, mais elle était quand même vraiment, vraiment bienvenue, quand même, quoi qu'il arrive.
Après, il y a un autre film, de monstres dans l'espace. Enfin, pas vraiment de monstres, mais un peu quand même. C'est Pandorum. T'es sympathique.
J'ai pas vu.
Pandorum, c'est un film qui est assez méconnu, où justement c'est un gars qui se réveille de cryosleep au milieu d'un espèce de vaisseau colonial totalement démonté. Et en fait, il y a des espèces de monstres qui ont pris possession du vaisseau. Tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas où ils sont, tu sais. Et lui, le gars, il est en train de chercher, du coup, juste à savoir où il est et quoi faire. Et en fait, c'est plutôt efficace, très sombre. Ça a petit budget, donc faut pas s'attendre non plus à une folie visuelle de chaque instant, mais il y a plutôt des bonnes idées. Moi, je me souviens que j'avais bien aimé à l'époque. J'avais pris en DivX, c'est pour vous dire si ça date. Mais voilà, quoi.
J'avais loué chez un loueur de DVD.
Il y a aussi une chaîne YouTube que je vous conseille, qui est très très bien, qui s'appelle Dust, qui fait énormément de courts-métrages science-fiction. Alors, si vous vous lancez dedans, il y en a pour... Enfin, vous en avez pour toutes les vacances de Noël, au-delà, pendant un an. Enfin, il y a plein de trucs très bien, des fois sympas, des fois très très bien, et des fois horreur. Et je trouve que, putain, il y a vraiment plein de bonnes idées qui pourraient faire des films, quoi. Ouais. Vraiment, quoi.
Ah, ça a l'air, au niveau de la qualité d'image, ça a l'air plutôt pas mal, ouais.
C'est pas facile que ça, justement, avec des bonnes idées, de faire un bon film. Hein. T'as des films qui sortent d'une très bonne idée, et du coup, qui sont quand même à chier, justement, parce que pourris par la production.
Ah bah oui.
Souvent, la prod pourrit les idées des créatifs, en fait. Hein. Ça, c'est malheureusement souvent le cas. Même si, des fois, ça arrive que ce soit l'inverse, hein, que les créatifs aient des idées de merde et que...
Non, mais ça, c'est Netflix.
Je trouvais ça intéressant. Marty, du coup, qui fait la séance de Marty, qui, si vous connaissez pas cette chaîne, est absolument incroyable. Vraiment, genre, le montage, c'est ouf. Enfin, bref, ces vidéos, mais je les regarde rien que pour le plaisir de les écouter. Et il avait fait un truc sur le cinéma, enfin, c'était mieux avant, une série de vidéos, donc assez longue, je crois que c'est 40 minutes chacune. Et dans la première, il parle de ce truc de, oui, effectivement, voilà, le côté, les mauvais, méchants producteurs qui empêchent les gentils créatifs de faire les trucs qu'ils veulent et tout. Et que c'est pas forcément aussi noir et blanc que ça, quoi, notamment par le biais de Star Wars, où, en fait, il y a des choix de cast.
Star Wars 1, 2, 3, on est bien d'accord.
Oui, Han Solo, qui était pas censé revenir au troisième film. Qui lui ne voulait pas d'ailleurs le faire et tout, et donc c'est pour ça qu'il est cryogénisé à la fin du 2, et c'était un peu en suspens entre le 2 et le 3 s'il le faisait revenir ou pas. Et en fait, ce qu'a fait dire oui, en fait on le fait revenir, c'est parce que simplement on n'aurait pas pu vendre autant de figurines de Han Solo qu'on voulait à la sortie du 3 s'il n'était pas là, mais en même temps, donc ça du coup c'est carrément des motifs financiers qui ont influencé le fait que Han Solo revienne dans le 3 et donc ont influencé quand même pas mal le scénar. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin à ce point là de vendre des figurines? C'est parce que c'est grâce à ces figurines qu'ils arrivent notamment à entre autres, mais quand même pour une grosse partie, à faire les films en étant à peu près libre de toute contrainte et en pouvant faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc en même temps, c'est vrai que j'avais trouvé cet exemple super intéressant, parce que c'est
un contre-exemple aussi,
fait,
c'est que
ça fait partie du business, en fait. Les deux se répondent forcément, quoi.
C'est qu'on voit bien sûr actuellement, justement, Star Wars, les derniers.
Bah ouais.
Quand ils veulent vendre des jouets, c'est pas pour faire des meilleurs Star Wars par la suite.
Non, par contre, là, oui.
Ah, mais des contre-exemples, il y en a, mais pléthore, mais bien sûr.
Voilà. C'est ça le problème aussi, c'est que, en fait, et c'est pareil aussi avec des réals, des fois, qui font de la merde, parce que du coup, il n'y avait pas de producteur derrière pour dire, bah non, c'est pas possible, ou non, c'est une idée de merde. Hein. Comme par exemple, justement, Star Wars, pour les épisodes 1, 2, 3, il y a beaucoup d'idées pourries, parce que c'est juste, bah, c'était George Lucas, tu dis pas non à George Lucas.
Oui, puis c'était surtout lui-même son propre producteur hein, sur le 1, 2, 3.
Je pense qu'il était tout seul, il devait forcément avoir un board. Ouais,
il avait des collègues, mais il avait
pas
de...
comme c'était forcément son bébé à lui, personne n'a osé lui dire que non, ça c'est une idée de merde. Mais George, change d'idée, s'il te plaît. C'est dommage, parce qu'en fait...
Il aurait dû engager quelqu'un pour écrire ses dialogues dans le...
Amoureux, donc c'est scénar, hein. Je veux dire, lui, l'idée principale, je veux bien, mais effectivement, les scripts, faut pas que ce soit lui, ça lui va pas, quoi. Mais moi, je trouve ça très dommage, parce que les idées, pour moi, toutes les mécaniques émotionnelles dans les films sont là, mais en fait, entre ces mécaniques émotionnelles, c'est du vide, c'est du creux, c'est du « mon cœur saigne de ne pas être près de vous, oh, je déteste le sable », et toutes ces répliques dégueulasses qu'on connaît, parce que c'est nul, et moi, j'ai beaucoup de mal à accrocher, parce qu'il manque tellement de choses, mais ça aurait pu être tellement bien. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, avec la prélogie.
La prélogie. Je vous renvoie d'ailleurs à notre hors-série sur Star Wars qu'on a fait il y a déjà bientôt pratiquement 2 ans. Et on a tous notre point de vue sur tout ça. Voilà.
Je ne rajeunis pas, Marc.
Et du coup, je voulais revenir sur autre chose. On ne va peut-être pas forcément parler forcément de cinéma, mais vu qu'on a quand même parti pas mal au début sur le principe de la peur, et je voulais savoir, toi, Jules, de ton côté, qu'est-ce qui fait que tu aimes la peur? Et toi, Maxime, c'est quoi ton point de vue sur la peur de manière générale, parce que t'as dit que t'avais fait un stream sur la peur, mais ça t'avait gavé très rapidement. Et c'est vrai que la peur, c'est un sentiment qui moi personnellement je déteste, mais j'ai souvent, très très souvent peur un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est quand même un leitmotiv chez n'importe quelle espèce, on est mu par notre peur, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort, d'une certaine manière, biologiquement parlant. Donc je voulais votre point de vue un peu sur ce sentiment bizarre qu'est la peur. Vous avez 2 heures.
Je t'en prie, Jules.
Bah, merci. je sais pas trop.
Vas-y, oui. Dans la peur, parce que t'as fait pas mal de, on a fait pas mal de JDR horreur, mine de rien, ensemble, et tu regardes pas mal de trucs horrifiques, t'écoutes du Lovecraft, etc. Donc,
En fait, moi, je suis arrivé dans la peur par les monstres. Quand j'étais gosse, j'étais très intéressé au folklore. Je vous renvoie sur toutes les chroniques de folklore de Marc. Yes, mais je m'intéressais pas mal au folklore, et en fait, je pense que je suis parti sur les films de monstres par là. Et après, en fait, j'ai une amie d'enfance avec qui on regardait beaucoup de films d'horreur. On se prenait, en fait, on cherchait le film d'horreur ultime, tu vois. Donc, du coup, on essayait plein de trucs, on regardait plein de films, et petit à petit, tu commences à voir les codes. Tu commences à, puis en fait, ouais, t'es intrigué d'en voir d'autres, quoi. Enfin, voilà. Et puis Alien, je l'ai vu. J'ai vu les 4 à 9 ans. Je pense que ça m'a marqué.
Ah oui.
Ouais.
J'avais
avec un pote, on avait regardé ça, tu sais, le DVD que tu piques aux parents sans qu'ils le sachent, et tu vas les regarder parce qu'ils sont pas là pendant l'après-midi. Waouh, on va regarder Alien. Et puis le soir, je voyais des aliens marcher au mur, j'arrivais pas à dormir. Donc voilà. Et puis voilà. Puis après Lovecraft, en fait, c'était quelque chose que je voulais écouter parce que ça fait pas mal. Ben, ça fait partie de la culture populaire à fond. Pourtant. Ouais. Je trouve que peu de gens ont lu les bouquins, et donc je me disais, j'ai quand même envie de savoir ce que c'est, et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est trop bien. Et pour les jeux de rôle en eux-mêmes, en fait, c'est simplement que quand j'ai commencé les jeux de rôle, moi, j'ai commencé le jeu de rôle en tant que MJ par, justement, l'adaptation d'Alien en jeu de rôle.
Ouais.
Et puis après, en fait, ce qui est bien avec les JDR horreur, c'est que je trouve que pour des débutants, c'est facile parce qu'en fait, tout est prévu. Enfin, c'est-à-dire que t'as un carcan. C'est pas comme un JDR en campagne ultra libre où en fait les joueurs vont vraiment faire ce qu'ils veulent. Là, puisque t'as plus ou moins échelonné la peur, enfin, faut que tu crées des situations. Alors, t'as une liste de situations qui peuvent arriver dans tel laps de temps. Et après, c'est aux joueurs de délimiter un peu là-dedans, mais t'es obligé de, par exemple, de délimiter par acte ou par moment, quoi. Ok, le moment dans la maison, ok, machin. Et en fait, je trouve que c'est rassurant en tant que MJ de faire des trucs d'horreur parce que, t'as des manières de poser une ambiance et t'as des manières de dérouler un scénar, même s'il va évoluer énormément en fonction des joueurs. Mais voilà, au départ c'était par facilité, puis là en fait ça me plaît, mais je commence à m'intéresser du coup maintenant à sortir un peu de ça. Mais
d'accord, ok, ouais, parce que tu gères franchement, t'arrives.
Merci.
À foutre les boules, quoi. Voilà, enfin bref, vous écouterez ça, chers auditeurs, le jour où ça sortira. Et du coup, Maxime, la peur?
Parce que moi, la peur, j'aime pas ça. Je suis ce qu'on appelle dans le milieu une petite mouille, hein, donc ça veut dire que j'aime pas avoir peur. Il faut savoir que moi, j'ai une histoire au niveau de la peur, c'est que vraiment, même Buffy contre les vampires à l'époque, ça, je craignais, même certains épisodes de Stargate SG-1 m'ont traumatisé à l'époque. Je suis vraiment, enfin, j'aime pas avoir peur du tout. Mais comme je suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo, j'ai découvert par la suite certains jeux du coup qui m'ont petit à petit fait pas forcément apprécier ça, parce que la peur toute seule je déteste ça, l'angoisse tout seul je déteste ça. Comme on disait au début, Alien Isolation c'est même pas la peine, j'y foutrais plus jamais les pieds dans le jeu. Même si c'est génial, hein, c'est pas la question, mais genre plus jamais de ma vie je vais ressentir ça. Mais quand tu mets de l'action horreur ou de l'action angoisse, là déjà ça m'intéresse beaucoup plus. Par exemple, les Resident Evil, par exemple, moi j'ai commencé par le 4, qui, c'est celui qui fait le moins peur du monde, mais déjà à l'époque je me chiais dessus à cause de ça. Mais
pas incroyable,
j'ai pas envie d'y jouer, du tout. Et du coup, par la suite, j'ai fait du coup tous les Resident Evil. Certains sont plus ou moins horrifiques, d'autres non. J'ai fait du Dead Space, j'ai fait du coup pas mal d'autres petits jeux, du coup, qui sont action slash horreur. Et c'est pareil avec les films, en fait. Moi, quand mon film, il est juste angoisse, j'aime pas ça. Par contre, quand il est angoisse slash action, j'aime bien. Parce que ça rajoute un espèce de petit shot d'adrénaline, un petit truc. Dans les jeux vidéo, par exemple, c'est le truc vraiment qui aiguise un peu tes sens, où t'es vraiment en train de te chier, et que quand t'arrives enfin dans une zone sûre, bah t'es bien. Mais j'aime pas être totalement impuissant dans ce genre de truc. J'aime pas justement ne pas avoir de possibilité de gameplay. Ne pas avoir de truc où justement c'est si chop, t'es mort. Ça, je déteste ça, en fait. Et je comprends qu'on aime, hein, c'est ça, chacun voit midi à sa porte. Et dans les films, c'est un peu pareil. Par exemple, Paranormal Activity, je vois pas l'intérêt, en fait. Moi, juste avoir peur pour avoir peur, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai envie que ce soit un truc où justement les personnages soient dans l'action. Pas forcément un point de vue pam-pam-boum-boum, hein, mais dans le sens, ils fassent quelque chose. Que ce soit pas juste, en fait, victime. Qu'ils soient aussi, du coup... Dans l'action, dans le fait d'essayer de gérer ça. Moi, ce qui me fait le plus peur, justement, c'est voilà, c'est cette impuissance, c'est ce truc-là, et c'est pas des choses que j'aime ressentir, tout bêtement.
Ok. Par exemple, 2004, j'y avais joué pareil dans Ado. C'est pareil, c'est genre, le jeu t'as acheté, il est interdit à plus de 18 ans. Et t'as largement moins de 18 ans. Ouais. Attention. Et tu le mets dans la. Moi, j'ai joué sur Wii. Alors, tu le mets dans la Wii. J'étais seul dans mon salon avec mes jeux. J'avais les jambes qui tremblaient avant d'arriver au village. Et là, t'arrives au village, et puis, en fait, ce jeu, mais exceptionnel. Putain, j'ai passé un temps dessus à tout poncer, tout faire. Et, j'étais tellement à fond dans le jeu que je voulais savoir, je parlais pas un mot d'espagnol, t'es dans un village espagnol dans le jeu. Puis les gens, ils arrêtaient pas de me dire des trucs quand ils me voyaient, donc je me suis dit, bah, je vais quand même demander ce que ça veut dire. J'arrive vers ma prof d'espagnol à la fin du cours, au collège, et j'ai fait, excusez-moi, ça veut dire quoi, muere? Meurs? Ok. Et ça veut dire quoi, matalo? Tuez-le?
Oui, matalo! Je m'en souviens!
Et je me souviens de son regard en mode, mais qu'est-ce qu'il me dit?
Qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Mais c'est quoi ces cons de jeunes? Moi, j'étais ah bah, merci. Bonne journée. Je suis parti. Cool.
Merci, hein, j'ai appris beaucoup.
C'est incroyable comme anecdote. Tu as dû te prendre pour un gros tas.
Mais grave, elle a dû rentrer chez elle le soir en disant, il va peut-être se passer quelque chose dans les jours qui viennent, mais je ne sais pas quoi.
Mais non, il était très cool. Pourtant, c'était un des moins horreurs, finalement, de la saga Resident Evil. Qui est une saga, du coup, que je connaissais très peu avant le 4 et qu'ensuite j'ai appris à aimer, et voilà. Et par exemple, j'ai fait le remake du 2 et du 3 qui sont très bons. Et par exemple, le 2 est vraiment dans la limite des munitions. T'as un truc qui parfois te court après. Donc, moi, je me suis pas mal chié dessus dans le remake du 2 qui est très très bon et je le conseille franchement vivement. C'est un des meilleurs jeux que j'ai joué ces dernières années. Vraiment, j'ai vraiment kiffé mon expérience. J'avais fait également le 7 de Resident Evil qui changeait radicalement d'ambiance. Et qui était aussi pas mal plus horrifique, en tout cas au début. Après, ça vire au Call of Duty dégueulasse et donc globalement, c'est nul. Mais les 3-4 premières heures de jeu sont très très cool. Et vraiment, t'es dans l'ambiance qu'en plus, t'es en FPS.
Je l'avais fait en réalité virtuelle.
Ah non, ça, c'est mort.
Premier en casque.
Oh, c'est quelle horreur.
Putain, c'est incroyable à quel point tu te rends compte de la manière dont toi, implicitement, tu mets une limite entre toi et le jeu dès que t'es devant un écran. Tu t'en rends pas compte, mais quand on te pose le casque et qu'en fait, t'es dedans. Mais t'es dedans. C'est-à-dire que tu te retournes, la chaise, elle est à 2 mètres, je la vois, je peux aller la toucher.
Enfin, presque, voilà, t'as plus cette sensation d'être dans le jeu et du coup que vraiment le danger
aucun... T'as plus aucune distance, quoi. Là, c'est ouais. Le moindre bruit, mais vraiment, t'as le cœur qui s'emballe de ouf. Là, j'étais en mode, ok, là, je suis vraiment pas bien. Mais du coup, dans ma tête de psychopathe, je me disais, ok, putain, c'est trop cool. Genre, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Je crois que là j'y suis au truc ultime, tu vois.
La réalité virtuelle, c'est dans l'horreur vraiment qu'elle est la plus atroce. C'est pour ça que j'adore le principe. Mais mon Dieu, quoi. Genre, par exemple, Alien Isolation plus réalité virtuelle, mais je le décède.
Mais ça doit être exceptionnel, putain. Alors ça, j'adore. Ah bah,
apparemment, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, parce que genre, tu te caches toi, quoi. C'est-à-dire, c'est pas genre tu caches ton personnage sous un truc, c'est que toi, t'es en train de te cacher sous un truc en attendant que le gars passe, enfin le gars, que l'alien passe à 2 mètres de toi. C'est-à-dire, toi, tu le vois avec tes petits yeux passer à 2 mètres de toi, pas de toi, ton personnage, de toi, toi. Du coup, comment tu veux que t'ailles bien? C'est atroce.
Oui, un peu. Mais voilà. Ça doit être trop bien, du coup.
Mais ouais, non, j'imagine. Mais c'est vrai que non, le Resident Evil 7 était très cool. Et ce qui est génial avec Capcom, c'est que vraiment, ils apprennent. Ça veut dire que du coup, le 8, c'est de la merde.
Ah.
Parce qu'en fait, le 8, c'est de la merde?
Ce que les gens aimaient, c'était justement l'aspect horreur du début du jeu. Et dans la deuxième moitié, c'était beaucoup plus action, du coup, on s'emmerdait. Et dans le 8, pardon, bah du coup, ils ont mis que de l'action.
D'accord.
Donc en fait, ce que les gens voulaient pas, quoi.
Pour avoir un résumé, le 7, c'est celui qui se passe dans un bayou, et le 8, c'est celui qui se passe avec des vampires?
Oui, voilà, ouais.
Ça.
C'est ça.
Ah, et le 8, avec des grandes formes, on va dire.
Ok, d'accord, ouais.
Okay.
C'est ce qui a fait vendre le jeu.
J'ai hésité à le prendre, bah du coup, ok. J'ai peut-être plus parti sur le.
Là, apparemment, c'est rigolo, mais.
Bah, je prendrais plutôt le remake du 2, du coup.
Ouais, prends le remake du 2, franchement. Ouais, franchement. Il est magnifique en plus. Par contre, le remake du 3, non. Ça, je dis, apparemment, Resident Evil, il y en a 1 sur 2 qui est à chier. Sauf le 5 et le 6. Là, ils ont fait 2 d'affilée qui étaient à chier.
Alors, derrière moi, il est passé Tiffany, qui, du coup, à qui j'ai fait jouer à Alien Isolation.
Ouais.
Et ça n'a pas duré longtemps. Non. Ça n'a pas duré longtemps parce que elle a eu un réflexe que j'ai trouvé personnellement très drôle, mais qui l'a beaucoup moins fait rire. C'est que dès qu'elle a vu l'alien, elle a paniqué, elle a lancé la manette sur l'alien. C'est-à-dire sur l'écran aussi. Et elle a fait elle a reculé de 2 mètres sur.
Ça me paraît une réponse
qui n'était pas assez profonde. Voilà, moi j'ai explosé de rire. Voilà, et du coup, depuis, elle a réussi une fois, mais ouais, non, là, pareil. Non,
il y avait vraiment des images de moi en train de jouer, de voir pour la première fois l'alien.
On peut aller voir ça sur Internet.
Ma réaction était à peu près celle-ci. Genre, oh, et ensuite j'ai essayé de courir dans l'autre sens, mais évidemment, quand tu cours avec l'alien, elle court après.
Et oui.
Plus vite que toi, donc tu décèdes.
Il y a encore l'intelligence artificielle de l'alien dans ce jeu qui est incroyable d'ailleurs.
Incroyablement chiante du coup. Moi j'aime les jeux où les ennemis sont cons, parce que du coup on peut les avoir. En fait ça c'est un truc qui je trouve qui est super intéressant, c'est justement quand tu développes un jeu et que du coup tu développes ton intelligence artificielle, faut pas qu'elle soit trop maligne, sinon ça frustre le joueur. Et du coup faut pas non plus qu'elle soit trop conne, parce que sinon il peut littéralement lui rouler dessus. Et du coup cette espèce de petit truc vraiment d'équilibre, je trouve ça assez passionnant justement de se dire bon alors les gars on va faire en sorte qu'elle puisse faire ça, mais par contre du coup qu'elle soit trop conne pour ouvrir une porte, non c'est important. C'est d'ailleurs un des grands trucs de certains Resident Evil, c'est que les portes dans Resident Evil ça a toujours été genre tu passes ta porte t'es bien t'es ok, mais dans certains jeux Resident Evil la porte ça suffit pas à que ce soit ok. Et du coup la première fois où ça t'arrive tu te chies dessus, parce que tu dis oh putain ils savent ouvrir des portes, tu vois, ça fait un peu comme les Raptors dans Jurassic Park.
Ou sinon t'as des trucs comme dans Alien et où les menus, genre afficher la carte, bah ça te l'affiche en hologramme, mais devant ton perso, c'est-à-dire que le jeu continue de tourner. Donc tu peux très bien te faire buter en regardant la carte.
Ascenseur.
Ou en sauvegardant.
De calme, mais pas dans des.
Et ouais. Et ouais. Et ça je trouve ça trop bien. C'est-à-dire vraiment, y a pas d'échappatoire, juste.
Dead Space était
dans la merde. Ah c'est incroyable.
Le 1 et 2 il y a pas très longtemps. Alors le 2 je trouve très en deçà du coup parce qu'il fait beaucoup moins peur.
Bah, ça commence à partir bah après ça part en Gear of Space quoi. Enfin Gear of War. Enfin c'est pas.
C'est ça, pas très intéressant. Mais le 1 était non, assez cool.
Non, ça part même en Lost Planet à la fin, j'ai trouvé.
Oui.
Ouais. Gros truc bourrin en pleine planète de glace. Ouais, j'ai vu des gameplays, j'ai fait bah non.
Enfin, déjà le 3 il s'en.
Je vais jamais donner de sous pour ça quoi.
En pop.
Bah voilà, déjà. Enfin, c'est-à-dire que c'est totalement con. Mais,
enfin, quoi que on m'a fait jouer, on m'a forcé à faire un jeu en stream. Qui s'appelait The Faculty, je crois.
Ah, comme le film de Rodriguez.
Non, justement, c'était un jeu très librement inspiré de The Faculty. Où justement, tu jouais des ados dans une faculté, dans une fac, hein, dans les dorms, et du coup, qui devaient se battre contre des monstres, etc. Apparemment, le premier était sympathique, mais le deuxième, j'ai pas trouvé ouf. Mais du coup, dans l'idée, c'était sympa parce que tu pouvais jouer en coop, mais ça restait un jeu d'horreur.
Ah oui, mais je crois que.
De faire un jeu d'horreur en coop, quoi.
Ça... Je crois que le JDG, il en a fait un stream de ça, non?
Ça me dit rien.
Ça te dit... Ah non, je dois confondre alors. D'adolescent
dans un jeu. C'est un jeu sur PS2, hein, c'est un vieux jeu.
Ah, c'est un vieux jeu, ok, d'accord. Mm.
Ok. J'avais entendu parler aussi d'un. Ah oui, voilà, c'est Phasmophobia, je crois.
Ah, ça, j'y ai joué aussi.
Phasmophobia, un jeu du coup de coop, ça a l'air vachement cool, où du coup, bah, on cherche à plusieurs, t'es avec tes potes, on est dans la même maison, on se voit, et il faut essayer d'enlever la malédiction ou d'un fantôme qui essaie de te buter. J'ai trouvé le principe super cool, quoi, un peu à la Among Us, peut-être des jeux coopératifs comme ça où t'as une vraie tension. Enfin,
en fait, c'est ça le truc, c'est que Phasmophobia.
Ça a l'air cool, mais j'ai pas joué.
Je parlais de l'impuissance dans Phasmophobia, t'es totalement impuissant en fait face à ton truc, mais par contre, tu peux te barrer. Ça, c'est bien.
Ouais.
C'est-à-dire, si vraiment le truc, tu le sens pas, tu rentres dans ton camion, tu fais non, mais on se barre, allez, vas-y, Régis, c'est bon. Mais bah, en fait, du coup, le but dans Phasmophobia, c'est pas du coup de battre le monstre, ça, on s'en fout, c'est de savoir ce que c'est. Ça veut dire qu'en fait, tu rentres dans la maison et t'as tout un tas de trucs pour tester. C'est-à-dire, t'as l'EMF, t'as le truc pour savoir la température, t'as des détecteurs de mouvement. Et en fait, selon les tests qui réussissent ou non, tu peux savoir ce que c'est. Et c'est le but, en fait. Et quand tu sais ce que c'est, tu gagnes de la thune. Et du coup, ça te permet d'acheter des meilleurs équipements qui vont te permettre de chasser des monstres un peu plus mastoc. Mais du coup, moi, j'ai essayé. Et effectivement, c'est très sympa. Alors effectivement, ça m'a rarement fait peur, mais quand t'as un truc qui t'apparaît vraiment juste à côté de toi, et que t'as littéralement ta bite et ton couteau, mais t'as même pas de couteau, en fait, t'as juste ta bite, et du coup, bah, tu te barres. Ça va pas.
Yeah, oui. Oui, c'est vrai que des fois, dans les jeux, on se demande pourquoi est-ce que le personnage continue à avancer. On avait justement joué à... Enfin, je t'avais regardé, Maxime, jouer à un jeu il y a pas si longtemps que ça, assez intéressant. C'était quoi comme jeu? C'était un jeu où on rentre dans un asile.
Ah oui, tout à fait. Je me souviens plus. C'est un jeu où tu fais avec une caméra surtout.
Ouais, une caméra, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, tout se base sur la caméra.
Et où
en fait, le jeu il commence. Le gars il doit aller dans un asile psychiatrique déjà. Ok, super. Bon, son staff il doit faire un reportage. Et il arrive au niveau de l'asile.
Ici.
Il se gare. Là, il voit un fourgon blindé du SWAT où il n'y a plus personne. Clairement, il s'est passé des trucs dans l'asile. Et là, le premier réflexe de n'importe quel humain, c'est de se barrer.
D'autres équipes de SWAT.
T'appelles d'autres flics, en fait. Et là, tu te demandes pourquoi est-ce que le personnage cherche à continuer à avancer. Il a aucune réelle raison de continuer à le faire. J'ai pas forcément suivi l'histoire, mais je me suis interrogé quand même sur le moment de... Mais, d'ailleurs, je crois l'avoir dit, l'avoir gueulé, faire « Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il rentre pas chez lui, quoi ?» Enfin, et c'est absurde, d'une certaine manière.
Bah, c'est un peu ce qui est bien fait, donc par exemple dans les Silent Hill, que j'ai vu suffisamment de let's play pour les connaître sans jamais y avoir joué, parce que comme je disais, j'aime pas avoir peur, et Silent Hill c'est vraiment très oppressant comme truc. Je sais pas si tu les as fait toi, Jules.
J'ai voulu y jouer à un moment donné, puis finalement j'ai pas eu le temps sur le moment.
Apparemment c'est vraiment masterpiece, hein, comme
mais
truc.
C'est le 2 apparemment est vraiment incroyable, et c'est fait, vrai que j'ai envie d'y jouer, mais les graphismes, j'ai peur d'avoir du mal à rentrer dedans.
Il passe encore relativement bien maintenant avec un bon émulateur, franchement tu peux avoir des trucs assez jolis.
Ok.
Mais du coup, okay. Dans les Silent Hill, quand tu vas dans la ville brumeuse dégueulasse, c'est justement parce que t'as des raisons d'y aller. Par exemple, tu reçois une lettre de ta femme décédée qui te dit « Vas-y, viens à Silent Hill ». Donc effectivement, tu te dis « Non, mais t'es con. Pourquoi t'y vas, connard ? Tu viens d'être décédé, tu vas pas aller dans une ville brumeuse dégueulasse. » Oui, mais c'est quoi la place du gars ? Il a envie de revoir sa meuf.
Bah oui, non, oui.
Du coup, c'est pour ça qu'il y va. C'est pour ça qu'il voit tout ça et c'est pour ça qu'il se pose des questions. Il se dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi ce bordel ? J'y comprends rien. » Et du coup, plus t'avances dans la ville, plus tu comprends des trucs et plus du coup, ça te donne besoin et envie de continuer parce que tu rencontres d'autres personnes, des personnes qui peuvent être en danger, etc. Et pour les Silent Hill, vraiment, c'est très très cool comme jeu à regarder en tout cas. J'aime bien regarder les autres y jouer à ce genre de jeu.
Mais c'est toujours plus plaisant de regarder quelqu'un qui joue à des jeux d'horreur plutôt que de jouer soi-même à un jeu d'horreur.
Non, ça dépend lesquels.
À jouer à des jeux d'horreur, je sais que j'y arriverai pas. Je me chierai beaucoup trop dessus rapidement.
À moi, c'est l'inverse. J'arriverai pas. Enfin, j'arrive pas à regarder des gens qui jouent à des jeux d'horreur. Ça me.
Ouais.
J'aime bien regarder, pourquoi pas, des compilations, des meilleures réactions à telle scène. Mais c'est pareil pour des films ou c'est pareil pour machin. Je trouve ça marrant. Mais sinon, après, en soi, j'ai un peu de mal aussi en règle générale à regarder des let's play. Au bout d'un moment, ça m'emmerde. J'ai juste envie d'y jouer moi, tu vois. Mais mais c'est vrai que des jeux d'horreur, du coup, d'autant plus parce que en regardant, je trouve, t'as pas du tout peur en fait. T'es juste en mode.
C'est ça. Oh, c'est
ok, comment il va gérer le truc
si tu profites de tout le jeu, mais sans avoir à chier dessus.
Et ça, c'est dommage. Moi, j'avais regardé, par exemple, tout Last of Us. Last of Us, ce qui est bien, c'est que t'as un côté histoire qui est ultra fort. Et donc, tout le premier, moi, j'y ai pas joué. Je l'ai juste regardé sur la chaîne Game Movie Land, qui fait des films à partir de jeux. Qui font vraiment des bons trucs, et donc moi The Last of Us j'ai connu ça par le film du jeu en quelque sorte, et ça m'a touché énormément, enfin vraiment c'était un truc incroyable. Et le 2, on y a joué ensemble avec Tiff, et du coup là pour le coup j'ai joué quoi, et les moments de tension effectivement tu les vis, alors c'est pas le même genre de peur, c'est une tension permanente. T'as quelques séquences effectivement où t'es dans des bâtiments où c'est sombre, t'as la frontale, tu sais qu'il va y avoir des merdes, où tu peux avoir un peu de flip et tout, mais voilà. Et c'est vrai que du coup là j'ai découvert le côté de The Last of Us que j'avais pas en fait vu, que j'avais pas intériorisé, c'était le côté flippant en fait.
Ouais.
Outre le côté scénario qui est vraiment génial, en fait il y a vraiment un côté flippant mais que tu peux pas expérimenter sans avoir été dans les situations flippantes en fait.
C'est vrai que ça c'est un gros débat de dire justement, on sait que le jeu vidéo est de plus en plus, il se tourne vers la cinématographie, mais tu peux te poser la question d'à quel point tu passes à côté de quelque chose quand tu n'as pas la manette dans les mains. Que tu auras beau voir un jeu avec quelqu'un qui joue en face de toi, bah c'est pas du tout la même chose que de l'avoir dans la main. Ça peut te donner envie, mais genre jamais t'auras les mêmes sensations.
C'est d'ailleurs justement pour ça. Alors je me rapproche, pardon. C'est d'ailleurs justement pour ça que moi j'aime pas jouer à des jeux d'horreur parce que je n'aime pas avoir peur. Et j'ai moins peur quand je vois quelqu'un jouer à un jeu. Parce qu'il y a double écran en fait. Il y a l'écran que la personne regarde et il y a l'écran que moi je regarde au travers de mon propre écran. Alors que quand je joue, ben c'est moi et en fait je vais me chier dessus. Enfin, j'ai peur.
C'est pour ça que t'es beaucoup plus impliqué quand tu joues, évidemment, parce que c'est toujours ton perso, c'est pas ton perso, c'est toi en fait, c'est un avatar.
C'est un avatar de toi en fait.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le jeu vidéo, c'est ça qui fait que c'est un média qui est très cher à mon cœur, c'est justement cette intensité que tu vas avoir à faire des choix, à du coup agir de telle façon ou non, à faire en sorte que ton personnage fasse ça ou si, bah c'est ça qui rend vraiment le média pour moi intéressant, qui peut raconter des choses qui sont, je trouve, pas forcément toujours très bien exploitées, parce que de nos jours, il y a quand même beaucoup de jeux qui se ressemblent, où globalement, en fait, c'est juste t'as un gameplay de base, et puis voilà, ils te mettent une histoire collée dessus à la va-vite, et puis vas-y, zou. Et du coup, les deux sont pas forcément en adéquation. Et c'est ça qui est dommage. Justement, ce qui est bien, c'est d'impliquer ton joueur. C'est de lui expliquer. Par exemple, justement, dans The Last of Us, la première scène est déchirante de The Last of Us. Mais encore plus parce que tu joues. Ouais. Et justement, elle est encore plus parce que tu joues et que tu n'y peux rien. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que un jeu, il va t'apprendre et il va te donner des émotions parce que tu fais et ce que tu peux faire, mais aussi parfois parce que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que regarder un écran sans pouvoir faire quelque chose pour sauver un personnage que t'aimes, c'est quelque chose. Mais avoir la manette dans les mains, avoir le pouvoir, et que le jeu dise « Ouais, mais non, tu peux pas la sauver. » Et ça, c'est encore pire. Et ça te trucide, ouais. Ça te fait du mal. Mais c'est beau.
Ah, moi, j'aime bien quand les jeux, justement, arrivent à absolument prendre que toi, tu ressens et arrive comme ça à t'impliquer beaucoup plus dans exactement ce que penserait le personnage, à te rendre RP en quelque sorte avec ton perso,
ouais,
tu vois. Dans Last of Us, t'as ça à mort dans le 2, du coup, avec le gros twist, et puis après de te mettre dans la peau de la personne dont t'as le moins envie d'être dans la peau à ce moment-là. Mais t'as ça, moi j'avais trouvé ça génial dans un jeu qui m'avait vraiment marqué, c'est Firewatch.
Il n'y a pas de jeu, pour finir avec ça, il y a énormément de personnes qui ont détesté cet aspect. Et justement, c'est pour ça qu'ils
Alors,
je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je comprends aussi que les gens, et c'est pas des choses qu'ils ont envie de ressentir, mais mettre mal à l'aise des gens, c'est aussi un peu le but d'un média et d'un truc culturel, quoi, pour moi aussi.
Ouais, moi j'ai pas entendu beaucoup de commentaires négatifs que j'ai trouvé pertinents contre The Last of Us 2. Mais bon, ça après, on pourra en reparler. Mais du coup, sur Firewatch, j'avais trouvé ça génial, parce que donc Firewatch, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu, du coup,
indé. C'est pas un jeu, un pompier sur un truc d'exploration pour regarder les forêts brûlées, et en fait il se passe des trucs chelous, non?
Alors t'es pas un pompier, ouais, c'est dans les années du coup 70, t'es du coup un firewatcher, un gars qui va surveiller les feux dans des grands parcs américains.
Ouais, voilà, c'est sympa.
Et donc effectivement t'es sur une petite tour et t'es perdu en plein milieu d'une zone de montagneuse, de forêt et autres, etc. Et en fait, il y a personne, il y a que toi dans cette petite cabane. Alors t'as un passé aussi avec ta femme. En fait, t'es là pour fuir aussi une situation familiale un peu compliquée. Et le seul lien que tu vas avoir avec quelqu'un, ça va être l'autre firewatcher qui est dans la vallée d'à côté. Tu distingues sa cabane au bout et tu peux lui parler via Tokiwoki. Mais voilà, c'est le seul lien que t'as avec elle. Et toi, t'es dans une zone, t'as ton terrain en fait qui est sous ta surveillance. Et en fait, le jeu tout le long du jeu, ils vont te demander de faire des allers-retours. À pied, tu fais tout à pied. Et des fois, c'est jusqu'à l'autre bout de la map, et puis après revenir et tout. Franchement, des fois, ça peut paraître fastidieux. T'es en mode, ah merde, putain, attends, faut que je repasse par le bois là-bas, que je revienne là-bas, que je refasse ici. Et puis, en fait, surtout, c'est un jeu qu'il faut faire en une soirée. Il y en a à peu près pour 4 à 6 heures à peu près de jeu, ça dépend comment tu fais dans le détail. Ça, ouais. Donc, faut l'enchaîner en une soirée pour rester dedans. Et en fait, le jeu, en te faisant refaire tout le temps des trucs dans des allers-retours dans le même environnement, il te fait déjà t'approprier à fond, en fait, cette zone. À la fin, t'es comme le gars, en fait, après plusieurs mois, c'est ton coin. Tu sais très bien que là-bas, il y a un arbre qui t'amène à ça et tout, parce que tu l'as tilté, toi, en parcourant. Tu sais que tu peux prendre un raccourci, tu peux prendre par là-bas, tu peux machin. Et puis surtout, en fait, comme le personnage, tu ressens totalement les effets de l'isolement. C'est que t'es tellement là à cogiter dans ton petit truc, dans ton petit espace tout seul, qu'en fait, tu peux pas faire autrement. Bah, tu réinterprètes tout ce que tu vois. Et du coup, bah, tu te fais peut-être des films sur ce qui se passe. Parce que bah, le pitch de Firewatch, c'est que bah, au bout d'un moment donné, il commence à se passer des trucs bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe autour de toi et t'es seul. Et en fait, tu te mets vraiment dans ce truc de te... Pas envie de spoiler, mais ouais, de faire des films, en tout cas, de surinterpréter tout ce que tu vois et tout machin, exactement comme dans le rôle de ton perso.
Ouais.
Et je trouve que la fin, du coup, est d'autant plus glaçante parce que tu te rends compte de ça, en fait. Tu te rends compte de... Ah ouais, putain, en fait... Bah oui, en fait, c'est logique. Et ouais, enfin, j'ai trouvé ça incroyable parce que t'en ressors en te disant le jeu m'a fait vivre
C'est un mec comme ça, quoi.
Ouais, et il m'a fait vivre, en fait, la psychologie du gars. Enfin, c'est-à-dire qu'en m'impliquant par le gameplay... En fait, il m'a totalement fait ressentir les émotions que le perso aurait pu ressentir. Et donc, il a orienté, pareil, mes actions, mon gameplay. Genre, ouais. Je vais aller voir là, je vais faire ci, je vais choisir ça. Parce que t'es dans la peau du perso, quoi. Et j'ai trouvé ça trop, trop bien. Vraiment, Firewatch, si vous avez une soirée de libre, c'est trop, trop bien, quoi.
C'est vrai que ça me rappelle un peu le Nier. Hein. J'en parle souvent, évidemment. Mais Nier, qui est un de mes jeux que j'aime beaucoup. Et qui, justement, va avoir utilisé cette même mécanique. Dans le sens, il sait comment les joueurs réagissent. C'est-à-dire que tu vois un ennemi, tu l'attaques. Tu te poses pas de questions. Tu vois un gros truc noir sombre, tu dis, oh, on va le tabasser, tu vois. Tu te poses à aucun moment la question. Mais justement, le truc de Nier, c'est que globalement, au bout d'un certain temps dans le jeu, tu vas recommencer le jeu avec juste un petit truc différent. C'est qu'en fait, tu comprends ce que les ennemis disent quand tu leur tabasses la gueule. Et tu comprends qu'en fait, bah, le gentil de l'histoire, bah, c'est pas forcément toi. Et c'est
énorme.
Intéressant de te faire réagir sur le fait de dire, en tant que joueur, tu trouves ça normal de tabasser des gens? Ça te paraît normal dans ta tête de te dire tu vois quelque chose que tu connais pas et tout de suite tu l'attaques? Et du coup, c'est super intéressant justement parce que le média, la manière dont il peut utiliser justement tes réflexes, à quel point du coup t'es conditionné par les codes du jeu pour te raconter des choses sur toi-même et sur te dire bah c'est pas bien de réagir comme ça. Et c'est pour ça que maintenant qu'on a un recul justement sur comment les joueurs et l'histoire du jeu vidéo, comment ils nous ont donné des espèces de réflexes, bah du coup, comment ça va plutôt te guider vers forcément un chemin. Tu vois, par exemple, des fois, tu vas avoir deux portes et ils vont savoir que tu vas aller dans celle-ci en premier parce que bah, 90% du temps, les joueurs, ils vont choisir celle-ci en premier, quoi. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'il y a un truc rouge au-dessus, peut-être parce qu'elle est entrouverte, peut-être parce qu'elle est machin. Et du coup, guider le joueur de telle sorte à ce qu'ils savent qu'il va faire ça et du coup, tu peux le surprendre. Je trouve ça aussi super intéressant. Et c'est, pour revenir à l'horreur, bah, c'est super bien comme truc parce que du coup, tu peux aller dans les expectations et au-delà. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas dans une salle avec des casiers, t'es sûr et certain qu'il y a un zonzon dans un casier.
Ouais.
La moitié du temps, t'en as un, quoi, en tout cas. Mais des fois, bah non. Par exemple, il va pas être dans le casier, il va être au plafond. Et du coup, il va être tombé dessus. Tu vas dire, merde, putain, ils m'ont eu les enculés. Mais du coup, c'est ça, c'est étonné comme ça, par le truc. Et pour revenir aussi à ce que tu disais sur le fait des environnements que tu connais et sur lesquels ils vont changer un petit quelque chose, bah, le level designer de Silent Hill, justement, parlait de ça, que c'était super intéressant, que c'était facile, en fait, de te faire en fait flipper. C'est juste bêtement, tu mets un objet du quotidien à un endroit où il ne devrait pas être, dans une salle, et sort, ça te met mal à l'aise. T'es pas bien. Ou par exemple, tu rentres dans une salle, et la prochaine fois où tu rentres dans la salle, il y a un truc qui a changé. Ouais. Genre, par exemple, je sais pas, le réveil, il est pas à l'endroit à droite, il y a un endroit à gauche. C'est rien. Genre, ça veut rien dire. Mais c'est juste, c'est bizarre quand même.
Parce que c'est des éléments du quotidien qui font flipper. En plus, ça arrive des fois dans la vie réelle de tu t'es gouré et t'as mis tes clés pas au bon endroit. Et t'as oublié et du coup tu les cherches et après tu te dis putain, mais c'est chou. C'est comme si quelqu'un était rentré dans ton intimité et avait changé quelque chose, quoi.
Vous connaissez par rapport à anticiper le fait que le joueur va faire et de jouer avec ça, vous connaissez de Stanley Parable?
Oui, oui, je j'ai jamais fait, du coup, peut-être un jour je le ferai, mais...
C'est trop, trop... Du coup, pour les auditeurs, c'est un jeu où on est posé dans la situation, on est un gars d'un bureau lambda, genre open, enfin voilà, le bureau genre The Office, voilà. On arrive, on est là, et puis on est devant l'ordi, et puis d'un coup, bah voilà, on est dans la salle, et il y a plus ou moins une voix off qui explique, bah voilà... Ici, voilà, il y avait Stanley, donc en parlant de nous, bah voilà, Stanley avait envie de se dégourdir les jambes. Et puis, en fait, le jeu, voilà, on est là dans notre bureau devant l'ordi. Puis au bout d'un moment, on va se dire, bah ouais, bah, je me casse, quoi, je pars de la porte et tout. Et puis la voix, en fait, elle va accompagner ce qu'on fait au fur et à mesure. Par exemple, on arrive devant trois portes, il fait, et Stanley avait très bien envie de, enfin, avait vachement envie de prendre la porte de gauche. Et en fait, bon, pendant la première partie, comme un con, j'ai suivi en fait tout ce qu'il me disait. Et effectivement, t'arrives à une fin d'histoire. Et là, en fait, le jeu reboot au début.
Ouais.
Et c'est exactement la même chose. Et donc, en fait, t'es là, d'accord. Du coup, tu refais un peu la même chose, tu resuis un peu, tu fais, je suis l'histoire. Hein. L'idée, c'est d'aller par là-bas, apparemment. Puis, au bout d'un moment, tu fais, du coup, la dernière fois, je suis déjà passé par la porte de gauche. Bah, je vais passer par la porte de droite. Tu passes par la porte de droite. Et puis là, en fait, la voix off, elle s'adapte. Genre, Stanley n'avait apparemment pas vraiment compris qu'il fallait qu'il prenne la porte de gauche et prend la porte de droite. Mais il faudrait vraiment qu'il prenne la porte de gauche. Et là, tu comprends, tu fais, ok. Donc, en fait, la voix off, c'est un personnage. Et en fait tout le bureau. Ami, tout le bureau, il y a des possibilités partout. Et en fait, l'idée de Stanley Parable, c'est de trouver les fins, en fait. De trouver les enchaînements qui vont te permettre d'arriver à un truc, à une situation où tu peux arriver que par là. Genre, voilà, je suis parti à la porte de droite là, après, je suis monté l'escalier là. Et puis en même temps, la voix off, elle va se rebeller en fait, parce qu'elle veut que tu suives le scénario. Donc elle va enchaîner ça, et du coup, t'as tout ce truc de dire. Enfin, moi, vraiment, ça l'a fait à mort la première fois de putain, mais je l'ai suivi comme un con au départ, parce qu'elle me disait de faire ça, alors qu'en fait, à aucun moment je l'ai questionné, quoi. Et c'est après que tu fais ouais, ok, d'accord.
Tu vas la jouer comme ça.
En plus, c'est très métaphorique, justement, parce que littéralement, c'est des embranchements, quoi. Et c'est des embranchements dans le jeu, mais c'est aussi des embranchements dans l'histoire. C'est que si tu fais ça, ça te donne telle route. Tu fais ça, ça te redonne telle route. Et en fait, ce truc-là, c'est comment tu construis un jeu, en fait. Par exemple, un jeu comme Mass Effect ou The Witcher, c'est si jamais ce gars-là, tu l'aides, ça va se passer ça. Si jamais tu l'aides pas, il va se passer ci. Et du coup, c'est littéralement juste la simplification la plus basique de comment tu fais un jeu avec des conséquences, etc. Et du coup, c'est super intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, fun fact, il y a un succès super rigolo dans le jeu où c'est il faut pas jouer au jeu pendant 5 ans.
Oui, j'avais vu.
Et du coup, il y a quelques personnes de temps en temps qui pop sur Twitter en mode genre hey, j'ai eu le succès enfin. Voilà. Mais moi, il faudra que je me le fasse un jour
pendant 5 ans, c'est ça.
Ça a l'air très rigolo comme principe.
Non, c'est assez marrant. Et d'ailleurs, si tu fais un choix, ça va te permettre d'accéder à d'autres endroits auxquels tu n'aurais pas pu accéder avant, etc. Mais ça transparaît également dans la prochaine partie qui va commencer une fois que tu auras débouché sur une fin. Des fois, effectivement, comme on disait tout à l'heure, tu recommences du début, et puis tu vas retourner quelque part, et là, attends, en fait, il n'y a que deux portes, il n'y en a plus trois. Ok. Et en fonction de ce que tu fais, tu vas plus ou moins mindfucker le jeu, donc la voix off, qui gère en gros le système, quoi. Et tu vas en fait modifier l'espace et donc arriver à d'autres possibilités auxquelles tu n'aurais pas pu non plus arriver autrement, dans d'autres parties.
Ouais.
Enfin, c'est marrant. Stanley Parable, c'est marrant. Pendant quelques heures, un après-midi, c'est drôle.
Genre, cette histoire de voix, ça me rappelle un peu Bioshock.
Dans Bioshock, c'est un peu le même principe, t'es guidé par...
Sauf que là, t'as pas le choix dans Bioshock.
Clairement un personnage et t'as pas le choix.
Le petit « Je vous prie ». Oh, il est fantastique. Jouer à Bioshock, c'est très bien, Bioshock.
Ah, j'ai pas joué.
C'est un peu horrifique.
Un petit côté horrifique, le premier, qui est pas dégueulasse.
Moi, il m'a bien fait
flipper. De te vendre un peu le truc. Et en ce moment, en plus, il se trouve à vraiment pas cher. Mais non, Bioshock, c'est très cool.
C'est moi, j'ai vraiment préféré le 3.
Son avion se crash et il y a un phare. Et du coup, il va dans le phare, et dans le phare, t'as un ascenseur, du coup, il prend l'ascenseur, et l'ascenseur, ça le mène dans une ville sous-marine, où on lui dit, oui, on a construit cette ville sous-marine pour être en dehors des censeurs, etc., une ville libre où on peut expérimenter tranquillement sans ces connards de capitalistes, alors qu'en fait, c'est la ville la plus capitaliste du monde, mais... Et du coup, c'est toute une ambiance un peu comme ça, et en fait, quand tu rentres dans la ville, tu te rends compte que la ville est en ruine, et qu'en fait, toi, t'es là, et tu sais pas où t'es, tu sais pas où tu es, et t'es une espèce de monstre qui t'attaque. Et du coup, tu dois un peu te défendre. Et c'est très cool. Il y a une très bonne ambiance, très bonne musique. Ouais. Le jeu était très beau à son époque. Et c'est vraiment un jeu très cool.
Et même, il est remaster et franchement, il est quand même toujours très beau.
Apparemment, hein. Remaster, il bug beaucoup. Donc, faut être prudent avec ça.
Ouais, c'est celui que j'ai fait, moi. Donc,
je te les avais offerts. Donc, il me semble bien que c'est la version.
J'ai fait le 1 et le 2 remastered. En fait, tu m'as offert le pack avec les normaux et les remastered. Et franchement, les deux sont.
Je te gâte. Hein. Ouais, je sais.
Bah, ouais. Mais moi, j'adorais Infinite aussi. Que
j'ai beaucoup moins aimé Infinite.
L'ambiance est différente, mais c'est une ambiance qui me plaisait plus, moi, après, parce que moins horrifique, mais plus bourrin, et puis une ambiance sud-américaine, enfin, sud-américaine, oui. Des États-Unis du Sud, que j'aime beaucoup.
Une ambiance raciste, hein,
ouais, Marc, exactement, ah, j'adore les États du Sud. Zemmour.
Mais c'est ça, c'est Zemmour, c'est game, quoi.
Bon, allez, bah, il fallait qu'on dise Zemmour à la fin de cette chronique.
Voilà, c'est ça, justement. Je voulais placer Zemmour comme bon mot de fin. Parce que ça fait déjà 1h30 qu'on tourne et je commence à avoir très 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 faim. Je pense que c'est le cas aussi pour vous. Toi, t'attends ton BK depuis un moment, Max. Ouais. Et bah, du coup, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Franchement, c'était très très chouette. On a bien discuté. C'était très cool. Chez vous, chers auditeurs, dites-nous si vous aimez avoir peur ou non. Quels sont les jeux que vous avez aimés parmi ceux dont nos deux invités ont parlé. Si vous en avez d'autres aussi qui vous plaisent. Et puis, on se revoit très très vite avec un nouveau binôme dès la semaine prochaine. Et ça va être excellent, vous allez voir.
Bref, et des jeux de rôle horreur dans pas longtemps.
Et des jeux de rôle horreur qu'on a teasé un peu ici dans pas longtemps, qui vont sortir, donc notamment autour de Alien. Voilà.
Écoutez,
et ça va être assez ouf. Écoutez et partagez, et mettez un pouce bleu, tout ça, la cloche. Bref, vous connaissez la chanson. Et abonnez-vous à la chaîne Twitch de Maxime.
Donc allez-y aussi, il n'y a pas de soucis.
Allez, ciao tout le monde.
Ciao. Da ti da tu da di da du da di da u da ti da tu da di da ti da tu da di da du da di da du.